Vous êtes sur RTL.
Toute l'équipe de Nos Petits Matins et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Ce matin, un seul conseil, hein, sortez votre boue et votre bouée, mais aussi votre masque et votre gel, car la cinquième vague est bien là. Elle impacte directement nos services de réanimation, comme vous pourrez l'entendre dans notre brigade RTL avec Odile Pouget à 7h15 en réanimation à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Zéro Covid il y a 2 semaines. Aujourd'hui, ce sont la moitié des lits qui sont occupés par ces patients dont absolument aucun n'était vacciné. Vous ne les entendrez pas car ils sont tous intubés. L'invité politique d'Alba Ventura est ce matin Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, nous donne tous les détails du protocole renforcé à l'école. À quand les fameux capteurs de CO2? La question lui sera posée par Alba. Et très logiquement, à 8h20, nous débattrons de la campagne politique en temps de Covid. Faut-il interdire ou réglementer les meetings face à la cinquième vague? Philippe Juvin, maire LR de la Garenne-Colombes et chef des urgences de l'hôpital Pompidou, sera opposé au député France Insoumise Éric Coquerel. Dans les fourneaux de Cyril Lignac, juste avant 9h, un excellent gratin de champignons, gratin qui fera croustiller Laurent Gérard et Jade qui seront avec nous dès 8h45. Et puis dans toutes nos éditions, ce matin, nous suivrons Pierre Herbulot qui déambule au marché de Rungis entre chapons, huîtres, foie gras et montagnes de fruits. C'est déjà Noël à Rungis. Nous sommes le mardi 7 décembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, quand le Covid frappe aussi durement les plus jeunes.
Oui, alors que le gouvernement durcit les règles dans les écoles. Témoignage ce matin sur RTL de Vianney, 11 ans. Il a passé une semaine à presque 42 fièvres. Le masque va donc redevenir obligatoire, y compris dans la cour. Pour le reste, pas de confinement, pas de couvre-feu, pas de jauge. Mais un message martelé hier. Soyons sérieux quelques semaines collectivement et nous pourrons espérer passer Noël plus sereinement. Un immeuble s'est effondré cette nuit à Sanary-sur-Mer dans le Var. 5 personnes seraient bloquées dans les décombres. Dans ce journal également, enquête RTL ce matin sur la violence dans le sport amateur, des parents qui insultent les enfants sur le terrain. La Fédération des Hauts-de-France de rugby tire la sonnette d'alarme.
La politique, Olivier Bost.
Et nous allons parler d'Emmanuel Macron, le grand absent de la campagne, enfin jamais très longtemps.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Pas de reconfinement, pas de couvre-feu, pas de jauge, mais l'exécutif a donc décidé de serrer la vis dans les écoles face à la flambée épidémique chez les plus jeunes. Les petits à partir de 6 ans vont devoir remettre le masque, y compris dans la cour. Les activités sportives vont être largement limitées. Objectif, freiner donc l'épidémie et protéger aussi les enfants. Je vous le disais, témoignage ce matin sur RTL de Vianney, 11 ans, qui a été très durement touché par le Covid, Yannick Collant.
Oui, Vianney va enfin pouvoir retourner au collège après avoir été mis KO par le Covid pendant une semaine. Une grosse fatigue, une fièvre intense et tous les symptômes de la maladie.
Le Covid, c'est pas rien, c'est plein de symptômes. J'ai perdu un peu l'odorat et dès que je mangeais, je sentais. Des fois, on tousse beaucoup et après, j'avais quand même peur de, à un moment donné, tellement que je tousse, m'étouffe et tout ça. Beaucoup de fièvre. Comme par exemple, ma mère, elle arrive et elle prend ma température. Je faisais que des hallucinations tellement que j'avais de la fièvre.
Vianney a pu échapper à l'hospitalisation. Martine, sa maman, est restée à son chevet toute la semaine.
Effectivement, il délirait. Il avait 39,8 de température. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à des symptômes aussi forts sur un enfant, puisqu'on pense souvent que les enfants sont plus ou moins asymptomatiques, ou on parle souvent d'une petite grippette. Mais pour Vianney, ça permettait une grosse fièvre pendant 6 jours à 39,40.
Dans cette famille, en tout cas, cela a rappelé de mauvais souvenirs. Le papa de Vianney avait lui-même été durement touché par le Covid lors de la première vague. Il avait fait plusieurs semaines de coma.
Reportage de Yannick Collant pour RTL. À propos des jeunes, l'hypothèse de la vaccination à partir de 5 ans est maintenant clairement sur la table. Elle serait possible à partir du 20 décembre, sous réserve d'avis favorables, notamment de la Haute Autorité de Santé, et sur la base du volontariat. Et puis les plus de 65 ans peuvent maintenant se faire vacciner sans rendez-vous dans les centres dédiés.
L'objectif de ces mesures a été clairement affiché, hein, c'est de pouvoir passer Noël plus sereinement.
Oui, le message de Jean Castex a été martelé. Soyons sérieux, quelques semaines collectivement, pour limiter notamment les contacts.
Nous avons les moyens de passer cette nouvelle vague. À nous d'être responsables, à nous de lever le pied sur ce qui est à risque, à nous de nous faire vacciner dans les bons délais, à nous de rester vigilants face aux nouveaux risques, à nous surtout de nous montrer solidaires vis-à-vis des soignants qui sont à nouveau sous pression et que nous devons soutenir et remercier pour tout ce qu'ils ont fait et font encore aujourd'hui pour protéger nos vies. Avec ces efforts proportionnés, j'ai la conviction que nous sortirons de cette cinquième vague comme nous avons réussi à le faire pour les précédentes.
Le Premier ministre Jean Castex, hein, la mesure la plus stricte annoncée hier, est la fermeture des discothèques à partir de vendredi pour 4 semaines.
RTL 7h04, c'est l'information de la nuit. Un immeuble de 3 étages s'est donc effondré à Sanary-sur-Mer dans le département du Var.
Oui, après une explosion, et c'est une course contre la montre qui s'engage pour les pompiers, puisque 5 personnes sont probablement bloquées dans les décombres, Guillemette Franquet.
Oui Olivier, hein, 75 pompiers sont sur place avec les forces de l'ordre, le SAMU et des équipes spécialisées en travail en milieu périlleux pour continuer les recherches dans les décombres. Cette nuit, un peu avant 4h du matin, un bâtiment de 3 étages s'est effondré sur lui-même à Sanary-sur-Mer, face au port, suite à une explosion. Des personnes se trouvaient dans cette maison de village. Explication de Stéphane Népère, officier de communication des pompiers du Var.
Le bilan fait état de 4 personnes légèrement blessés qui ont été pris en charge et évacués vers les centres hospitaliers du secteur. Et on aurait notion de 5 personnes actuellement bloquées dans les décombres et les recherches sont en cours. Et
pour le moment, impossible de connaître l'origine de cette explosion. Cette maison de village typiquement provençale, c'est un bâtiment de 3 étages divisé en plusieurs appartements et un commerce au rez-de-chaussée.
Merci Guillemette Franquet pour RTL. SOS Racisme va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. 5 de leurs militants avaient été placés en garde à vue après s'être infiltrés dans le meeting d'Éric Zemmour. Ils avaient été accusé à tort par les services de sécurité du candidat d'avoir été violent. Ils ont été libérés d'ailleurs hier matin sans poursuite.
Dans un instant, des parents qui insultent des jeunes sur un terrain de rugby. Les fédérations alertent sur la violence qui gangrène les terrains du sport amateur. Restez avec nous, il est 7h05, à tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal d'Olivier Bois et la sonnette d'alarme que tire la Ligue régionale de rugby des Hauts-de-France.
Oui, il y a de plus en plus de violences sur les stades, des arbitres menacés, des parents qui insultent les enfants de l'équipe adverse. La Ligue a envoyé un courrier à tous les licenciés de la région. Antoine Decarne, pour RTL, est allé assister près de Douai dans le Nord à un match de 7e division.
Ouais, sur le terrain boueux du stade municipal, les mêlées s'enchaînent, c'est viril mais correct. En fait, c'est surtout aux abords que l'ambiance est chaude.
Il a marqué, il a marqué.
C'est derrière la main courante que le rugby a changé.
On voit que les mentalités changent sur le bord du terrain et que ça peut vite dégénérer.
Alain Douez est le président du club de rugby de Le Forêt. Il n'a pas du tout été surpris par le courrier de la Ligue.
C'est des insultes, ça monte, c'est de la provocation. Ouais, c'est plus les parents qui suivent les enfants. On a l'impression qu'on devient comme au foot en fait. Les parents qui supportent pas que son enfant prenne un coup, qui ne laissent plus mettre les éducateurs et les entraîneurs. On évite de mettre un papa ou entraîneur ou éducateur dans la même équipe que son fils. On gère la situation. Quoi.
Alors certes, le rugby est un sport de combat, mais les cas violents autour des matchs ont vraiment augmenté en France. Serge Abdi est délégué de terrain depuis 20 ans et membre du conseil de discipline de la Fédération française.
La violence, tant verbale que physique, est devenue récurrente. Oui. Ils n'ont pas réussi à évacuer cette frustration de l'absence de match.
Car tous font le lien avec la période de confinement qui a déréglé les comportements.
Reportage RTL d'Antoine Decarne dans le Nord et enquête RTL ce matin sur ces violences qui touchent aussi le football amateur. Vous entendrez dans le journal de 8h un témoignage absolument édifiant, comment un jeune de 17 ans a été lynché samedi dernier par les supporters de l'équipe adverse. Un mot de sport, le vrai pour le coup, le football et la Ligue des Champions ce soir. Le PSG reçoit Bruges à 18h45. Les Parisiens, hein, qui on le rappelle, sont déjà qualifiés pour la suite de la compétition. En bref, à l'étranger, les bruits de bottes à la frontière ukrainienne. Joe Biden et Vladimir Poutine vont se parler directement aujourd'hui. Les États-Unis accusent depuis des semaines Moscou de masser des troupes avec la crainte de voir Vladimir Poutine envahir à nouveau ce pays. Si cette escalade continue, les États-Unis menacent de prendre des sanctions économiques inédites. Par ailleurs, les États-Unis mettent leurs menaces à exécution. Leurs athlètes pourront aller aux JO d'hiver de Pékin, mais ils n'enverront aucun représentant officiel. Boycott diplomatique donc pour protester contre les violations des droits humains et notamment la persécution des Ouïghours.
Allez, on va partir à nouveau à Rungis où les courses de Noël se préparent déjà.
Et oui, depuis 4h30 ce matin, on est avec Pierre Herbulot dans les coulisses du plus grand marché d'Europe. 12 000 professionnels s'y côtoient tous les jours. Restaurateurs, traiteurs, tout ce beau monde vient s'approvisionner. Pierre, on poursuit la visite avec vous. Je crois que vous êtes au rayon, entre guillemets, à l'espace fruits et légumes qui est lui aussi très impressionnant.
Oui, et devant moi des montagnes de fruits et légumes. J'avais jamais vu autant de pommes de terre de toute ma vie. Il y en a à perte de vue qui s'empilent dans l'immense entrepôt. C'est magnifique parce que vous avez toutes les couleurs. Les fruits rouges ici, les agrumes de ce côté avec les citrons verts, les citrons jaunes, les oranges, le tout parfaitement rangé. Alors il faut être attentif hein, par contre parce que les transpalettes passent dans tous les sens. Des dizaines de camions sont chargés à destination des marchés de toute la région. 2000 tonnes de produits s'échangent ici tous les jours.
Pierre, est-ce que les professionnels que vous croisez depuis ce matin ont déjà la tête aux préparatifs de Noël dans un contexte qui est quand même un tout petit peu alourdi depuis hier soir ?
Oui, absolument. Alors, ils essaient de faire abstraction du contexte. Et effectivement, hein, le rush de Noël a déjà commencé. Il va s'accentuer jusqu'à dans 15 jours, en fait. Il y a deux choses qui marchent particulièrement bien au pavillon fruits et légumes ici. Ce sont d'abord les fruits exotiques, fruits du dragon, fruits de la passion, ou alors les ramboutants, des sortes de fruits rouges poilus, et même les mangoustans. Alors, je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler. Ça vient d'Asie du Sud-Est. Et puis, bien sûr, le must de Noël ici, c'est l'or noir, la truffe. Et je peux vous assurer que malgré la taille de l'entrepôt, il se dégage une odeur assez formidable du côté des champignons. Et pourtant, ça reste entre nous, hein, mais la saison de la truffe, c'est pas avant le mois de janvier.
Une autre précision, Pierre, est-ce qu'on porte son masque dans les allées de Rungis ce matin ?
Pardon Yves, je ne vous ai pas entendu.
Ma question était, est-ce qu'on porte le masque dans les allées de Rungis
ce matin ? Ah oui, absolument. Tout le monde porte le masque et je vais vous dire, c'est assez de manière assez rigoureuse. Et pourtant, on est quasiment en extérieur, hein, finalement. Les entrepôts sont très grands, c'est très espacé, mais... Voilà, les producteurs et les grossistes sont assez rigoureux.
Merci beaucoup Pierre Herbulot, vous êtes avec Jonathan Griveaux donc depuis 4h30 ce matin à Rungis et on vous retrouvera d'ailleurs tout au long de cette matinale dans les coulisses, un peu des préparatifs à 18 jours de Noël.
Les courses, elles ont lieu à Chantilly.
Avec le 9 qui est non partant, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 5, le 4, le 12, le 6, le 16 et le 15. La dernière minute, c'est le 4.
Le journal de 7h vous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h12, l'éditorial politique d'Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce que vous relevez ce matin, Olivier, c'est qu'Emmanuel Macron est le dernier candidat non déclaré. C'est le grand absent de la campagne présidentielle, mais jamais très longtemps.
Non, c'est amusant de voir qu'à chaque fois que l'actualité politique se réchauffe, Emmanuel Macron revient sur scène. Quand les débats Les Républicains ont été lancés, le chef de l'État était revenu à 20h, devant 21 millions de Français captifs, pour nous parler un peu de la troisième dose, et surtout pour une grosse dose de politique sur tout ce qu'il voulait faire aujourd'hui, demain et dans un prochain quinquennat. La rebelote, après un week-end avec une bonne poussée de fièvre politique avec Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron est aujourd'hui dans le Cher et demain à Vichy, au contact, comme disent ses proches. Et il donnera une conférence de presse jeudi, son gros travail du début de l'année.
Bon, alors j'entends votre ironie, vous plaisantez ou vous êtes sérieux ?
Pour savoir vraiment si Emmanuel Macron le fait exprès, il faut demander à ses proches, écouter leurs certitudes et leurs doutes. C'est incroyable comment de ses ministres à ses amis, ils angoissent à sa place. La désignation de Valérie Pécresse est une mauvaise nouvelle, disent les uns. Le sondage IFOP de ce matin dans le Figaro, où la candidate Les Républicains gagne 7 points, leur donne des sueurs froides. Les attaques d'Éric Zemmour, d'une grande violence ce week-end contre le chef de l'État, ne les ont pas rassurés non plus. La question qui se pose en Macronie est toujours de savoir comment répliquer au risque de faire monter ses phénomène. Et s'il faut répliquer, qui peut le faire à part Emmanuel Macron lui-même ?
Pourquoi tant d'angoisse finalement ?
De toute évidence, les Français attendent d'être surpris. Ce qui fait qu'une fusée sondagière, un candidat qui se met à prendre des points d'un seul coup, peut décoller d'à peu près n'importe où, comme c'est le cas aujourd'hui pour Valérie Pécresse. Le second tour devient incertain et c'est bien plus insécurisant pour un président pas encore candidat. Emmanuel Macron peut répliquer, comme il va le faire cette semaine, mais il ne peut pas répliquer à tout et descendre dans la mêlée. Et dans la majorité, personne ne peut vraiment jouer les contre-feux. La deuxième ligne attend trop souvent la parole du chef avant de dire quoi que ce soit.
Mais Olivier, Emmanuel Macron est à 23-25% des intentions de vote dans absolument tous les sondages. Après tout, il n'a pas vraiment de soucis à se faire, en tout cas pour l'instant.
Oui, et faire campagne depuis l'Élysée est un avantage concurrentiel indéniable. Sauf qu'il n'y a pas une énorme marge pour perdre des points. Emmanuel Macron en perdra, inévitablement quand il se déclarera, le plus tard possible. Et le rebond ne sera pas évident dans une campagne courte et forcément déceptive. C'est ce qu'a confié un ami d'Emmanuel Macron à Vincent Derosier du service politique de RTL. On ne retrouvera jamais l'esprit de conquête de 2017.
Et bien justement, retrouver Vincent Derosier avec Marion Calais dans Focus, c'est le tout nouveau podcast, hein, quotidien de la rédaction d'RTL. Focus, c'est un sujet d'actualité approfondi chaque jour par la rédaction d'RTL et disponible gratuitement sur notre application et sur toutes les plateformes de podcast. RTL.
RTL événement.
Et très logiquement, après votre chronique Olivier Bost, RTL événement nous emmène à Versailles. Ville miroir des droites françaises, Valérie Pécresse, fraîchement élue candidate de la droite, y habite. Éric Zemmour y a fait sale comble lors d'un meeting en octobre. Il a la cote auprès des catholiques conservateurs. Et dans les urnes, Emmanuel Macron enregistre de très bons scores, plus de 76% au second tour en 2017. Alors, pour qui Versailles va-t-elle voter en avril? Nous allons voir ça avec vous, Marie Mollet, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Pour le savoir, vous êtes allé à la rencontre des Versaillais.
Oui, et plus précisément dans les quartiers Saint-Louis et Notre-Dame. Plein centre, le château et la Feuille d'Or en haut des grilles sont à quelques rues. On est ici dans les quartiers les plus bourgeois de la ville, les plus conservateurs aussi. Alors quel candidat aura les faveurs des électeurs, anciens fillonistes pour la plupart? Dilemme pour Claire et Hélène, deux retraités qui attendent la campagne pour trancher.
Moi je vais vous dire qu'en ce moment je suis très hésitante. Filloniste, partie chez Macron. Depuis que c'est Pécresse, c'est sûr que c'est la mieux de la droite. Je l'aurais bien vu comme ministre de Macron. Hein. Moi, honnêtement, j'attends beaucoup de débats entre Macron et Pécresse.
Une chose qui serait très importante pour moi, c'est les questions sociétales. GPMA, GPA, ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. C'est la même chose que je lui reprocherais. Il est dans l'air du temps, là. Hein. Macron.
Éric Zemmour.
Surtout pas. Négatif, pas constructif.
Son meeting, quand même, ils ont réussi à tous se castagner dans le fond de la salle. Tout le monde.
Moi, j'aurais honte de l'avoir comme président.
Pourquoi honte?
Ils montent les gens les uns contre les autres. Et je pense qu'en ce moment, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein.
Des Versaillais, pris d'un doute, d'une hésitation, Pécresse, Macron, Macron, Pécresse. Même question pour Marie-Antoinette. C'est son prénom véritable. Elle est professeure dans une école privée sous contrat.
En termes économiques, je dirais que ça se vaut. C'est deux libéraux, et tant mieux. En termes sociétal, je ne sais pas, pour mettre un frein à tout ce délire. La notion de non-genre, j'adhère pas du tout. On a très peur de ce haro contre la civilisation judéo-chrétienne.
Éric Zemmour.
Non, ça va trop loin, c'est trop loin. Il y a tout un tas de musulmans en France qui sont vraiment français. Non.
Vous l'entendez chez ces électeurs qui se disent modérés, les sujets sociétaux reviennent très spontanément et on entend également une forme de rejet, voire d'aversion, pour Éric Zemmour.
Alors on entend les critiques, mais Marie à Versailles, vous avez aussi rencontré des sympathisants d'Éric Zemmour.
Oui, on en trouve, hein, ils sont moins nombreux à le dire en tout cas, mais c'est le cas de Thomas, 21 ans, étudiant, rencontré juste devant les écuries du roi. Lui était au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte dimanche dernier.
Je suis maintenant membre du parti Reconquête Éric Zemmour.
Vous avez pris votre carte?
Hier. Le candidat qui représente pour moi bien la droite, c'est vraiment Éric Zemmour qui arrive à faire le rassemblement de l'aristocratie patriote et des classes populaires. Il a dit plusieurs fois vive la France par rapport à vive la République parce qu'il sait que la France a existé avant la République.
Bah, est-ce que pour vous il y a un autre régime possible que la République?
Aujourd'hui, non. Je comprends totalement les monarchistes, mais pour moi, c'est un peu éviter le combat et dire bon, bah, je suis monarchiste, donc je ne vais pas voter. Ok, mais il ne faut pas se plaindre après qu'on n'a pas voté.
Et Marie-Joseph, ancienne comptable, votera aussi Zemmour. Elle avait défilé en 2013 contre le mariage pour tous. PMA, GPA, euthanasie, ce sont aussi les sujets sociétaux qui guident son choix.
Je ne pardonne pas à Macron de l'avoir fait. PMA, GPA, on va la voir.
Pécresse, vous la trouvez ambiguë sur ces sujets-là?
Ah oui, elle est ambiguë.
Elle avait défilé au moment de la manif pour
oui,
tous.
Mais elle s'est rétractée après. Hein.
Éric Zemmour, lui, est suffisamment clair sur
ces
sujets?
Ah oui, ça, il est clair. Qu'il est contre l'avortement, contre la PMA. Pour lui, il y a un père, une mère. Pour moi, mon choix, il est fait. Hein. C'est Zemmour. Il a au moins secoué un peu le cocotier. Bon, il est honnête. Naturellement, c'est facile de dire qu'il est décliniste. Ben, l'état de la France va très mal. Ça, il faut le savoir. Hein. Tout va mal.
Reste une question, Marie. Marine Le Pen a-t-elle des soutiens à Versailles?
En tout cas, j'ai posé la question à la quarantaine d'habitants que j'ai croisés. Eh bien, aucun ne m'a fait part d'une intention de voter Marine Le Pen en avril.
Il faut rester raisonnable, Pécresse ou Macron.
J'ai toujours été contre. Et le père et la fille.
Je la trouve un peu vulgaire. Elle ne nous a pas beaucoup soutenus pour la manif pour tous, ça c'est vrai. Je préfère sa nièce, vous voyez Marion.
Donc pour résumer ce que j'ai pu entendre à Versailles, Marine Le Pen n'a pas la cote, Éric Zemmour clive, ici comme ailleurs, et la bataille peut se jouer entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, ici comme ailleurs.
Dans un instant, notre brigade de l'actualité nous emmène dans le service de réanimation de l'hôpital Béclair à Clamart. Vous allez le voir, la situation se tend très largement. Et au chapitre politique, je vous le rappelle pour être tout à fait complet, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui sera l'invité d'Alba Ventura à partir de 7h40.
Yves Calvi, RTL Matin.
7h20, je vous rappelle ce chiffre, plus de 12 000 patients hospitalisés, près de 2200 soins critiques. Pour l'instant, l'hôpital résiste, mais pour combien de temps? Nous sommes allés constater l'impact de cette cinquième vague dans un service de réanimation. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez ce matin à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart dans les Hauts-de-Seine.
premier étage du bâtiment et au détour d'un couloir, cette vision toujours saisissante. Un patient bardé de tuyaux, plongé dans le coma. 6 soignants s'affairent autour de lui.
C'est un patient qui remonte du scanner et maintenant il faut le réinstaller correctement dans son lit.
Jérémy Sergent, infirmier.
Il faut rebrancher au niveau du respirateur parce que c'est un patient intubé. Attention à vous.
1, 2, 3.
Le patient est assez lourd, donc on a besoin de beaucoup de bras.
Des bras, il en faut un peu plus chaque jour. Ici, il y a encore à peine 2 semaines, il n'y avait pas de malade Covid. Déjà en souffrance, par manque d'effectifs, le service du docteur Charles Damoisel est au bord de la saturation.
Là, on est ouvert à 10 lits de réanimation au lieu de 12. Et donc, on a 5 patients qui sont Covid et donc qui prennent la moitié des lits. Là, on a plutôt des patients plutôt jeunes, 40-60 ans. C'est des patients qui ne sont pas forcément comorbides, en fait, et pas forcément très vieux. Tous, ils sont tous pas vaccinés.
Tous pas vaccinés. Et leur nombre ne fait qu'augmenter.
Alors l'inquiétude des patients, des médecins, Odile, hein, c'est aussi les autres patients.
Oui, car il n'y a pas que le Covid. Ici, une femme atteinte d'une insuffisance rénale aiguë, là, un homme victime d'une péritonite. Tous ont besoin de ces soins intensifs. Le week-end dernier, il y a déjà eu 2 transferts vers d'autres hôpitaux.
Madame, ça va ?
Pendant ce temps, Jérémy, l'infirmier, poursuit sa tournée. Une de ses patientes, une Roumaine de 65 ans, est sortie d'affaires.
Dans l'après-midi, vous allez au 3e étage, d'accord ?
Ah, voilà.
Oui, ça va mieux.
Donc on va pouvoir se permettre de libérer une chambre. D'ici 2-3 heures, on pourra reprendre un nouveau patient.
Une place pour un nouveau patient, mais un travail harassant pour les soignants.
Alors justement, ces soignants, Odile, confrontés à cette 5e vague, dans quel état sont-ils ?
Épuisés, moralement, physiquement, Stéphanie Gallia gère 42 infirmières, 30 aides-soignantes.
J'ai environ 1 à 2 arrêts par mois pour, par exemple, des cervicalgies, des douleurs dorsales. C'est vrai que le corps dit aussi stop.
Et à 3 semaines des vacances de Noël, la cadre de santé s'apprête à demander à ses équipes de renoncer à 1 ou 2 jours de congé en cas de besoin.
Odile Pouget au service de réanimation de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. On parle beaucoup de santé, c'est tout à fait normal. Eh bien, l'établissement français du sang s'inquiète et lance un appel aux dons. Il manque actuellement 30 000 poches de sang pour couvrir les besoins en transfusion pendant la période des fêtes de fin d'année. Dans un instant, notre pépite musicale.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On vous retrouve avec plaisir. Quel est le programme ?
Alors à l'honneur ce matin, cette chanson romantique qui fait chaque année sa réapparition à l'approche de Noël. Last Christmas, Noël dernier, immense succès en 84 du groupe Wham, le duo que George Michael formait avec son complice Andrew Ridgeley. Morceau écrit et composé par George Michael chez ses parents dans sa chambre d'ado, avait-il confié. Cette chanson a été reprise près de 400 fois. En 1985, elle a été adaptée en français.
Ah bon ?
Oui, c'est devenu une chanson d'amour intitulée « Reviens-moi », parole de Didier Barbelivien. Ça n'a pas marché. C'est pourtant une star qui avait été choisie pour l'interpréter puisque c'était Dalida. C'est notre pépite du jour. Dalida chante « Reviens-moi », version française de « Last Christmas ». Je vous ai laissé un peu d'intro avec les clochettes.
Oui.
Collector d'Alida, ah, chanté, oui, du George Michael, mais oui, ça fait partie de ses derniers enregistrements. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on trouve aujourd'hui le morceau en streaming dans un mini-album qui s'appelle Dalida chante Noël, mais au départ, c'est une reprise qui avait été faite pour accompagner les vacances de l'été 85. Il voulait en faire un tube de l'été, et sur la pochette du 45 tours, Dalida est en plein soleil et sort la tête d'une piscine. C'est formidable pour un album de Noël, non ?
Le
le texte.
Merci beaucoup, Tony. On se dit à demain et à tout moment sur l'appli RTL. Et bien, puisque nous sommes dans cette ambiance de Noël et qu'RTL aime vous gâter, nous allons vous offrir une chance de gagner 100 000 euros. Vous avez bien entendu, RTL vous offre 100 000 euros. Je vois vos grands yeux, Louis Baudin. C'est bien 100 000 euros qu'RTL vous offre. Enfin, pas à vous. Hein. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire au grand tirage au sort. Appelez dès maintenant le 3210. Le 3210, 50 centimes la minute. Ou par SMS, envoyez les trois lettres RTL au 74 900. RTL au 74 900. 75 centimes par SMS. 5 minutes pour gagner 100 000 euros. Tirage au sort le 17 décembre. C'est pas mal, hein? Allez, la météo de Louis dans un instant. Vous n'avez pas le droit de participer. Moi non plus. Anthony, vous non plus. Relisez les textes de Didier Barbelivien. Voilà.
Ok, chef.
RTL Matin. Nos grosses têtes, chaque jour d'entre 15h30 et 18h avec Laurent Ruquier et ses sociétaires. Et chaque jour, là aussi, la fameuse valise RTL est mise en jeu.
Comment vous appelez-vous ?
Roger.
Je m'appelle Marie-Claire.
Oh, et vous habitez joli, où ?
Mais j'habite pas loin de chez vous, j'habite à Neuilly.
Venez voir un café.
Venez.
Gina, c'est vous qui avez la roulotte juste à la frontière entre Neuilly-sur-Seine et le bois de Boulogne.
Oh non. Ah, oui, je vois laquelle, celle où il y a le parasol ouvert quand c'est ouvert et fermé quand
c'est. Voilà. Gina, t'es au courant de tout.
C'est Daniel Evenou qui vous parlait.
Qui sont vos invités aujourd'hui ?
Les miens ?
Non. Il y a Bernard Mabille.
Mais il y a Christine, bravo.
Ah, aussi Bernard.
Bonjour
Mabille.
Gina.
Ah, vous le connaissez bien, il est client de la roulotte.
Ah, et Gérard Hernandez.
Ah, oh, j'adore. Oh, bah dis donc, c'était une équipe de vieux ce matin.
Toute l'équipe vous fixe à rendez-vous dès 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Ruquier. Notre météo avec vous, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Yves. Alors, nous avons une petite accalmie ce matin, même si encore quelques flocons dans l'est, là, entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace, des 300, 400 mètres. Ça va quand même se calmer cet après-midi dans ces régions de l'est. Oui, mais dans l'ouest arrive une perturbation, mais alors à toute vitesse en plus, la voile qui arrive sur la pointe bretonne avec beaucoup d'activité. Donc elle va donner de la pluie ce matin sur la Bretagne, renforcement du vent, 70-80 km/h. Et puis cet après-midi, c'est toute la moitié ouest qui sera sous cette perturbation. Donc avec beaucoup de pluie, elle arrivera sur l'île de France en milieu d'après-midi, tout comme le Massif central ou encore le Nord-Pas-de-Calais. Et puis le vent va également se renforcer très nettement puisqu'on atteindra les 100 km/h sur le littoral de la Manche cet après-midi. Midi avec cette pluie, 90 sur la façade atlantique, et elle arrivera dans les régions de l'Est, plutôt en cours de soirée, où elle donnera beaucoup, mais alors beaucoup de neige en montagne, des 700-800 mètres sur tous les massifs. Il va neiger toute la nuit. Demain matin, sera totalement blanc. Même chose sur les Pyrénées. Et puis les températures, elles restent à peine de saison, voire un peu en dessous. 4 à 6 degrés seulement de la région Rhône-Alpes au nord-est cet après-midi. 7 à 9 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 10 à 15 degrés dans le sud.
De la neige en montagne, ce sera magnifique. Merci beaucoup Louis RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 7 décembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est l'information de la nuit, l'effondrement d'un immeuble de 3 étages à Sanary-sur-Mer dans le Var. 5 personnes sont probablement bloquées dans les décombres. C'est une explosion qui a dévasté le bâtiment, on n'en connaît pas encore la cause. Gaël est serveur dans une brasserie juste en face de cet immeuble.
C'est vraiment c'est impressionnant, c'est un immeuble qui est coincé entre plusieurs immeubles quoi, et qui s'est effondré sur lui-même. Bon, c'était un immeuble qui était vétuste, hein. Ah, il y a tous les gravats, il y a toutes les affaires, des meubles, vous savez, enfin des choses. Enfin, on peut pas passer, c'est bloqué. Après, vous avez la police, les pompiers. J'ai un peu choqué quand même. Moi, j'ai entendu dire que c'était une fuite de gaz qui venait d'en bas. C'est un commerce, c'est le Galion à Crêperie.
Un témoignage recueilli pour RTL par Guillemette Franquet. La mise au point du jour, elle est signée François. Le pape a accepté la semaine dernière la démission de Mgr Aupetit, l'archevêque de Paris, accusé d'avoir entretenu une liaison avec une femme il y a quelques années. Le souverain pontife n'a pas hésité longtemps avant de l'écarter, mais il ne condamne pas. Écoutez.
Aupetit est pécheur. Les péchés de la chair ne sont pas les plus graves. Mais quand les rumeurs vont crescendo, elles détruisent la réputation d'une personne et il ne pourra plus gouverner. L'homme dont on a ruiné la réputation publiquement ne peut plus gouverner. Et c'est une injustice. C'est pourquoi j'ai accepté la démission d'Aupetit. Non pas sur l'autel de la vérité, mais sur l'autel de l'hypocrisie.
Le pape François hier à bord de l'avion qui le ramenait de son voyage en Grèce. Les États-Unis mettent leur menace à exécution. Ils n'enverront aucun représentant diplomatique aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Une réaction aux violations des droits de l'homme en Chine, notamment sur la minorité des Ouïghours. Boycott diplomatique donc. Mais les athlètes américains, eux, seront bien présents. Pékin promet des contre-mesures fermes.
7h32, objectif sauver Noël. Face à la cinquième vague, le gouvernement appelle à la prudence.
Pas de mesures choc, ni confinement, ni jauge. Mais le Premier ministre demande aux Français de lever le pied sur les interactions sociales. À l'école, le protocole sanitaire est renforcé. Les enfants vont de nouveau devoir porter le masque dans la cour. Mais pas de vacances avancées, pas de fermeture de classe, sauf si on cumule 3 cas de Covid. La porte-parole du SNUIPP, Guylaine David, ne comprend pas.
C'est très étonnant d'avoir pris cette décision du passage du niveau 2 au niveau 3, hein, qui renforce quelques gestes barrières à l'école, mais tout en ayant conservé l'allègement qu'on a pris il y a une semaine sur la gestion des cas positifs dans l'école. Là, on est vraiment dans des cas où on frôle les 1000 en taux d'incidence et 6-10 ans. C'est du jamais vu. C'est fulgurant, nous, dans nos écoles. Ça va être très compliqué parce qu'on est en mode très dégradé.
Guylaine David avec Marie Guerrier. La vaccination des enfants les plus fragiles va débuter dès le 15 décembre, dans 8 jours donc. Et dans la foulée, le gouvernement veut enclencher la vaccination de tous les 5-11 ans avant la fin de l'année, sans doute à partir du 20 décembre, si la Haute Autorité de Santé donne son feu vert. Pour limiter les contacts, les entreprises sont appelées à étendre le télétravail à 2 ou 3 jours par semaine. Et les discothèques vont de nouveau fermer à partir de vendredi pour 4 semaines. La crainte pour l'instant se concentre sur le variant Delta, mais on surveille toujours Omicron. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, évoquait hier soir un variant plus contagieux, mais pas plus dangereux.
Il n'y a aucun élément clinique qui nous permette de considérer que ce variant soit plus dangereux pour les humains que le variant Delta, ce qui serait évidemment une nouvelle rassurante de ce point de vue-là. L'OMS nous fait part de sa vigilance extrême et le Centre européen des maladies transmissibles considère que ce variant pourrait représenter la majorité des contaminations en Europe d'ici à quelques mois. C'est pourquoi vraiment nous faisons tout pour en freiner la diffusion.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Une enquête est ouverte donc après les violences lors du meeting d'Éric Zemmour dimanche dernier à Villepinte.
Un premier volet porte sur ce jeune homme qui a agrippé le candidat juste avant son entrée en scène. La garde à vue a été prolongée. On ne connaît toujours pas ses motivations. L'autre volet de l'enquête porte sur le tabassage des militants d'SOS Racisme. Militants qui portent plainte par ailleurs pour dénonciation calomnieuse. Ils ont été eux-mêmes accusés de violence et placés en garde à vue. Marseille, championne de France des règlements de compte. C'est ce que révèlent les chiffres qu'RTL vous dévoile ce matin. Depuis le début de l'année, on a compté 68 règlements de compte en France, dont un quart dans la cité phocéenne. Dans 9 cas sur 10, les violences sont liées au trafic de drogue. Ariane tente de concurrencer SpaceX. Le groupe européen va développer à son tour un mini-lanceur réutilisable baptisé Maya. On pourrait dire il était temps, Sophie Jousselin.
Oui, en 2026, ça fera déjà plus de 10 ans que SpaceX fait revenir ses fusées sur Terre. Mais le projet d'Ariane Group ne part cependant pas de zéro. Le constructeur européen travaille sur un nouveau moteur, Prometheus, et sur Themis, un prototype de lanceur réutilisable, les deux briques indispensables pour ce futur projet. André-Hubert Roussel, le président d'Ariane Group.
On va pouvoir, grâce à cette technologie, les mettre à bord d'un lanceur. Et ce lanceur volera en 2026 au plus tard. C'est un lanceur en fait réutilisable pour lancer des micros et des mini-satellites jusqu'à 500 kg.
Car il s'agit de s'adapter aux nouvelles exigences spatiales, aux constellations, ces grappes de petits satellites lancés par dizaines pour apporter Internet partout sur la planète.
On est passé d'un espace assez traditionnel avec quelques grandes missions d'exploration, des satellites d'observation de la Terre. Aujourd'hui, on a toute une multitude de choses et en particulier les constellations qui justifient des cadences élevées de lancement. Et grâce à la réutilisation, évidemment, on va pouvoir faire face à ces nouveaux besoins.
Et à terme, mais Marianne pourrait revenir sur Terre après chaque lancement.
Sophie Jousselin, un mot du foot. Le PSG joue pour du beurre ce soir en Ligue des Champions. Les Parisiens affrontent Bruges, mais ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et assurés de terminer à la deuxième place de leur groupe. Coup d'envoi de ce match à 18h45. C'est à suivre en fil rouge sur RTL.
Nous, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, et on va parler du succès phénoménal des Tribute Bands, ces groupes de reprises qui nous font revivre l'âge d'or du rock.
On se retrouve à 8h40 pour cette face cachée de la Une. Isabelle Choquet, merci beaucoup. Alors avant l'Angleco, on va faire un petit tour et même un détour par le marché de Rungis. Pierre Arbulot, je rappelle que vous y trouvez depuis 4h30 ce matin pour nous faire vivre en fait les préparatifs de Noël. Où en êtes-vous dans votre périple matinal? C'est toujours l'effervescence.
Alors oui, absolument. Là, je suis en voiture avec Jonathan Griveaux qui est au volant et à la technique pour RTL. On se dirige vers le pavillon gastronomie pour parler foie gras, mais aussi Fromage, deux incontournables des fêtes de fin d'année. On était obligé de se déplacer en voiture parce que Rungis, c'est grand comme 300 terrains de foot. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le plus grand marché de produits frais au monde.
Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve dans le journal de 8h. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Vous célébrez à votre manière les 20 ans de l'euro, alors est-ce l'âge de la maturité? Eh bien on vous retrouve dans un instant mon cher François, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Anglais Co avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors il y aura bientôt des visages de personnages historiques célèbres sur nos billets d'euro, dites-moi.
Mais oui, c'est le quotidien Les Échos qui nous l'apprend en effet. Pour ses 20 ans, l'euro réfléchit à un nouveau look, avec enfin des visages d'artistes, d'intellectuels, de personnages éminents imprimés sur les coupures en papier. La Banque Centrale Européenne devrait sélectionner plusieurs figures historiques. Alors on peut penser à Léonard de Vinci, Marie Curie, etc. Et puis consulter les citoyens ensuite avant de lancer la fabrication.
Bon, pourquoi dites-vous enfin ?
Mais parce que de façon absurde, les dirigeants monétaires d'il y a 20 ans avaient renoncé à faire figurer sur les billets des éléments du patrimoine historique européen, personnages ou monuments, par peur de froisser les susceptibilités nationales, parce qu'il y avait plus de pays membres que de faces de billets à décorer, il y aurait donc eu des perdants. Du coup, on a pris le soin de créer des dessins qui, c'est invraisemblable, mais c'est délibéré, n'ont aucune ressemblance avec des sites ou des monuments existants.
Mais c'est ahurissant. Alors qu'est-ce que ça change au fond?
En fait, c'est assez important parce que c'est une façon de s'approprier la devise qu'on utilise, que de la rattacher à l'histoire commune, hein, au lieu d'en faire un signe abstrait comme c'est le cas aujourd'hui. Tous les pays du monde ou presque représentent d'ailleurs sur leurs billets des personnages ou des sites dont ils sont fiers. Et c'est peut-être pas un hasard que l'Europe se décide à le faire maintenant parce que pour ces 20 ans, l'euro a bien changé. La crise du Covid l'a fait ressembler aussi à une vraie monnaie pour la première fois.
Ah, c'est intéressant ça, que voulez-vous dire ?
Il y a eu deux révolutions. D'abord, tous les pays de la zone euro ont pu emprunter quasiment sans limite auprès de la Banque centrale, à coût nul, taux zéro, pour financer les dépenses extraordinaires de la lutte contre l'épidémie et puis la crise qui l'accompagnait. Deuxièmement, le plan de relance a été financé et décidé conjointement, de façon mutualisée. Deux choses qui auraient été impossibles avec les monnaies nationales, en particulier les possibilités d'emprunt, parce que elles auraient été proportionnelles à la crédibilité de chacun. Bon, assez faible pour les pays du Sud, hein, on l'imagine. De ce point de vue, il y a eu, avec l'euro pendant le Covid, un vrai bouclier. Et c'est très différent de ce qui s'était passé après la crise de 2008, où au contraire, l'euro avait causé des difficultés supplémentaires.
Alors qu'est-ce qui n'avait pas marché à l'époque? Ça aussi c'est intéressant.
Les pays du Nord, l'Allemagne d'Angela Merkel et puis surtout son ministre des Finances, vous vous souvenez, Wolfgang Schäuble, refusent à l'époque et le soutien de la Banque centrale et la mutualisation des dettes. Et c'est ce Nein qui provoque la crise de l'euro. Entre 2011 et 2012, une rechute de l'activité seulement pour la région européenne. Finalement, ils se feront forcer la main par le patron de la BCE, c'est l'italien Mario Draghi, qui sauve l'euro en disant quoi qu'il en coûte, hein, ce fameux quoi qu'il en coûte, et ça calme les marchés financiers instantanément.
Si ça a été plus facile cette fois-ci, c'est parce que les dirigeants n'étaient plus les mêmes.
Sans doute en partie, mais aussi probablement parce que le temps a passé et que l'expérience désastreuse de 2011 a porté. En plus, si vous voulez, autant la première crise était en partie causée par le comportement irresponsable, dépensier de pays comme la Grèce, autant la seconde, celle du virus, on ne pouvait pas l'attribuer à quiconque. Oui. C'était la malchance. Ou la malchance ou les docteurs Folamour d'un laboratoire chinois de virologie. Du coup, ça légitimait une action concertée, même aux yeux des pays les plus rigoureux.
Bon, donc on va avoir enfin des visages sur nos billets européens, ça c'est une excellente nouvelle.
Et c'est une bonne nouvelle.
Voilà, il n'y aura pas Mussolini, il n'y aura pas Hitler, il n'y aura pas Pétain, je rassure tout le monde.
On peut l'imaginer. Voilà.
Non, merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Les vacances ne sont pas avancées, mais le masque est obligatoire partout, y compris dans la cour. Pas de brassage à la cantine, voilà les nouvelles mesures à l'école pour lutter contre le Covid.
A tout de suite avec Jean-Michel Blanquer sur RTL.
RTL Matin. RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Le Premier ministre a donc annoncé un tour de vis supplémentaire dans les écoles primaires. On passe du protocole 2 au protocole 3, le masque est obligatoire partout, même dans la cour. On évite de se croiser à la cantine et le sport dans le gymnase, c'est plutôt calme avec masque et gestes barrières. Ça, Jean-Michel Blanquer, vous pensez que ça va suffire à freiner l'épidémie qui explose chez les enfants ?
ça va contribuer évidemment à piloter la situation, ce que l'on fait depuis le début. On ne peut pas dire qu'il y ait une explosion, le mot est trop fort, il y a un taux d'incidence qui est en train d'augmenter.
Attendez, on a 950 cas pour 100 000 habitants, et fin novembre on était à 390 cas
c'est tout simplement parce qu'on fait plus de tests, on fait beaucoup plus de tests chez les enfants. Vous savez, avant les vacances de la Toussaint, il y avait 3 fois moins de tests chez les enfants que chez les adultes. On proposait 400 000 tests salivaires par semaine et il y en avait à peu près un peu plus de 200 000 qui étaient faits, tout simplement parce qu'on avait 50% de taux d'acceptation de la part des parents. Depuis qu'on a changé le protocole, c'est-à-dire environ depuis 8 jours, on est rentré dans une logique complètement différente, puisque pour revenir à l'école, il faut montrer un test négatif.
Eh bien, c'est recommandé, c'est pas obligatoire.
Non, si dès le premier jour, si on veut revenir, quand vous avez un enfant. Ça, c'est ce qu'on a décidé donc il y a 8 jours, et c'est ça la mesure la plus importante. Hein. C'est le fait que lorsqu'il y a un enfant qui est positif, qui est contaminé à l'école, quand il y a un cas positif, toute la classe, on demande à toute la classe d'être testée et ne reviennent que ceux qui sont négatifs. C'est ce que nous appliquons depuis plusieurs jours et c'est ce qui fait qu'on a moins de classes fermées grâce à cette mesure. Mais pourquoi est-ce qu'on peut se permettre ça? C'est parce qu'il y a plus de sécurité sanitaire, puisqu'il y a beaucoup plus d'enfants qui se font tester du fait de cette mesure. Autrement dit, les parents vont en pharmacie ou ailleurs pour faire les tests. Et donc là où avant les vacances de la Toussaint, vous aviez 3 fois moins de tests pour les enfants que pour les adultes, maintenant vous avez 3 fois plus de tests pour les enfants que pour les adultes. Donc ce qui a explosé, c'est le nombre de tests faits pour les enfants. Et bien sûr, on reste très vigilant. Mais tout ceci, en plus, concerne l'école primaire, ça va de soi, puisque s'agissant de l'enseignement secondaire, le fait que les enfants soient désormais vaccinés à près de 80% nous permet de continuer à piloter les choses de la même manière.
Dites-moi juste, on a des cas de variant Omicron à l'école ?
Alors pour l'instant non, pas de cas identifiés, mais à mon avis ça ne saurait tarder puisque c'est en train de se développer en population générale.
Jean-Michel Blanquer, vous avez longtemps dit que l'école n'était pas le lieu où l'on se contaminait le plus, c'était plutôt par la famille que le Covid était transmis, ça ne tient plus ?
Si, bien sûr, ça reste la vérité. C'est-à-dire, de toute façon, chacun peut l'observer dans sa vie quotidienne. Regardez la façon dont les gestes barrières sont respectés à l'école, ce qui est pour l'essentiel le cas. Bien entendu, il peut y avoir des exceptions, mais les adultes font attention à ce que les enfants respectent les règles, alors que dans leur vie personnelle, leur vie sociale, il y a beaucoup plus de brassage, beaucoup plus de... on n'a pas observé moins de contamination pendant les vacances que pendant le temps scolaire.
Mais ça, quand Bruno Lina, le virologue, dit l'école est le principal accélérateur de l'épidémie aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
J'ai arrêté de commenter les commentaires des épidémiologistes. J'ai la liste.
C'est
de...
quand même un non, spécialiste.
Non, je
qui
me
fait
suis toujours référé.
Non,
quand le conseil scientifique s'exprime, quand la haute autorité de santé s'exprime, évidemment c'est à cela que je me réfère. Mais si vous voulez, il y a tous les jours beaucoup d'épidémiologistes qui parlent si je m'amuse à les commenter,
mais je me permets de vous le dire parce que certains épidémiologistes vous soupçonnent de laisser les enfants s'immuniser en se contaminant histoire de provoquer une immunité collective. Non, ça pourrait être une stratégie.
Non, ça pourrait, mais
ça serait peut-être plus efficace que la vaccination.
Je voudrais qu'on nous fasse quand même le crédit que on est désormais depuis plus d'un an et demi dans cette crise sanitaire. Il y a eu des interventions en permanence de ce genre depuis un an et demi. On a tenu bon avec une boussole qui est l'école ouverte, mais on l'a fait de façon sérieuse. C'est ainsi qu'on n'a pas eu ensuite des résultats de contamination en France supérieurs à nos voisins, alors même que nos voisins, eux, fermaient les écoles. Cette politique de l'école ouverte, elle a été tellement convaincante que maintenant les autres pays européens, c'est celle-là qu'ils suivent. Donc aujourd'hui, faisons-nous le crédit quand même d'un certain sérieux dans ce qui se passe. Je suis habitué maintenant qu'il y ait des déclarations dans un sens, dans un autre. Je suis obligé de maintenir le cap du navire d'une manière, je dirais, sérieuse et permanente.
Monsieur le ministre, vous avez décidé donc de ne pas avancer les vacances de Noël. Si ça flambe toujours pendant les vacances, est-ce que vous vous réservez la possibilité de les rallonger? C'est ce que fait le Portugal d'ores et déjà, d'ailleurs.
On a toujours sur la table toutes les hypothèses. D'accord. On est pragmatique depuis le début. Et donc, cette hypothèse-là, c'est ce genre de formule qu'on avait utilisée au moment des vacances de printemps. On peut toujours l'imaginer, mais en tout cas, ce n'est pas l'hypothèse privilégiée aujourd'hui.
Et comme l'idée, c'est de sauver quand même les fêtes de Noël, est-ce que vous autorisez les parents à retirer les enfants de l'école avant les vacances pour les isoler s'il y a des retrouvailles familiales en grand nombre?
Non, c'est pas du tout un message que je passe. Vous savez, moi, pour moi, c'est très important que les enfants aillent à l'école. C'est pas une variable d'ajustement. On ne doit pas, dans notre société, je dirais, dépendamment et indépendamment de cette crise sanitaire, accoutumer tout le monde au fait que l'école, c'est quelque chose sur lequel on va pas. Non. Si on a fait l'instruction obligatoire à 3 ans, par exemple, c'était pour envoyer un message sur le fait que l'école maternelle, on y allait tous les jours, à toutes les heures prévues, etc. Parce que l'école, c'est du sérieux, si vous me permettez l'expression. Et l'école, c'est bon pour les enfants. un des grands enseignements de la crise sanitaire à l'échelle mondiale, c'est que les enfants ne vont pas bien quand ils ne vont pas à l'école. Donc on a besoin qu'ils y aillent. Et d'ailleurs, à l'école, ils apprennent les gestes barrières, ils apprennent des choses qui leur sont utiles ensuite dans la vie sociale.
Alors, l'école, c'est du sérieux. On va s'arrêter sur ce nouveau protocole parce que je n'ai pas vu dans ce nouveau protocole un plan permettant d'installer partout des purificateurs d'air dans les classes ou dans les cantines. Ça fait un an et demi qu'on a cette maladie. Pourquoi on n'a pas fait un grand plan pour installer partout des purificateurs d'air?
Mais les purificateurs d'air ne sont pas la solution magique au problème. Et sinon, on l'aurait fait, bien entendu. J'invite chacun à regarder sur le site du ministère de la Santé les documents assez approfondis qu'il y a sur les purificateurs d'air. Tous ne sont pas utiles. Certains peuvent être même contre-productifs et certains usages peuvent être contre-productifs. Donc c'est un sujet très complexe. Ça peut être utile dans certaines occasions. Les collectivités locales qui sont responsables de
mais
ce sujet...
Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas forcément utile?
Mais parce que vous avez d'abord certaines catégories qui ne sont pas pertinentes. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais la façon dont vous posez le filtre peut aller accumuler du virus sur le filtre et être à la limite contre-productive.
Est-ce que ce n'est pas parce que le ministère n'a pas voulu payer des purificateurs
d'abord,
partout?
Non, pas du tout. Vous savez, on a financé des millions de masques, on a financé des millions de tests, on a su dépenser quand c'était nécessaire, mais c'est à moi aussi de ne pas faire n'importe quoi sous la pression, si vous voulez. Donc, c'est une compétence des collectivités locales. Elles ont acheté des purificateurs d'air quand elles ont estimé pertinent, notamment dans les salles qui n'ont pas de fenêtres. Ça peut être pertinent. Et encore certains purificateurs d'air...
Et vous les subventionnez ?
Et on est, avec les préfets, si une collectivité locale a un besoin particulier, on est capable de venir en soutien. On est surtout venu en soutien financièrement de l'achat de capteurs de CO2 qui commencent à être quand même maintenant assez nombreux en France. Et on va lancer encore une nouvelle campagne pour qu'il y ait plus de capteurs de CO2.
Là aussi, et donc c'est pas là, vous dites aux collectivités, venez chercher votre enveloppe. C'est combien?
On a déjà une enveloppe de 20 millions d'euros pour rembourser les collectivités locales qui le demandent, mais seulement les collectivités locales nécessiteuses, si vous me permettez l'expression, puisque un capteur de CO2, ça coûte 50 euros. Donc la plupart des collectivités locales sont tout à fait en
combien
situation de l'acheter, c'est ce qu'elles ont fait. Ça dépend du nombre de classes que vous avez. Chaque collectivité locale le fait à sa façon. Vous pouvez en avoir un par classe ou un.
Mais 20 000 euros, ça permet d'en acheter combien?
Non, 20 millions d'euros.
20 millions d'euros, pardon.
Oui, ça coûte 50 euros. Oui. Donc, vous voyez, vous faites rapidement le calcul.
Oui, mais voilà, il est tôt ce matin. Donc, je voudrais revenir sur les élèves de 6e, parce que la plupart ont moins de 12 ans. Pour eux, vous avez prévu des autotests deux fois par semaine. L'objectif, c'était 600 000 autotests, Jean-Michel Blanquer. On en est à 200 000, c'est pas beaucoup.
Non, les tests salivaires, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Donc, vous avez d'un côté 400 000 tests salivaires proposés chaque semaine à l'école primaire. On serait tout à fait capable d'en proposer plus, mais on a, comme je vous le disais, 50% d'acceptation de la part des parents. Par ailleurs, nous avons mis des autotests à disposition des élèves de 6e. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et là, tous les élèves de 6e sont en situation d'être servis. Aujourd'hui, si vous avez un enfant en 6e, vous avez droit à 2 autotests par semaine donnés par le collège.
C'est les écouvillons?
Oui, c'est des écouvillons.
Vous avez déjà essayé de les tester sur vos enfants?
Oui, tout à fait. C'est amusant que vous me posiez la question, parce que oui.
Parce que les parents, souvent, ne savent pas s'ils le font correctement. Et on leur fait poser ça
non,
sur les
écouvillons. Il y a un petit mode d'emploi qui est donné avec, qui n'est pas trop compliqué. Donc, c'est deux choses différentes. D'une part, les tests salivaires, qui eux, sont simples et faits à l'école. Et puis, les autotests dont nous parlerons, qui en effet sont avec des écouvillons et pour les élèves de 6e.
J'ai une dernière question sur la vaccination. On a les dates données par le ministre de la Santé. Les enfants à risque le 15 décembre. Et s'il y a les feux verts pour les autres, le 20 décembre en centre de vaccination, le 27 décembre chez le médecin ou dans les pharmacies. Elle ne s'organisera pas à l'école, la vaccination?
Non, mais par contre, nous ferons de l'information sur le sujet, importante, puisque nous attendons vraiment la confirmation par les autorités de santé du fait que c'est pertinent. Et nous nous préparons avec le ministère de la Santé pour que le maximum d'enfants le fassent. Ça va rester facultatif, mais évidemment, on encouragera cela, puisque c'est à partir du moment où les autorités de santé l'auront validé. Ce sont des vaccins spécifiques pour enfants. Et donc, ce sera, dans ce cas-là, très utile pour contribuer à vaincre l'épidémie.
Merci, monsieur le ministre.
Merci à vous.
Je rappelle deux chiffres. 80% des élèves sont vaccinés dans le secondaire, nous avez-vous dit, Jean-Michel Blanquer. Et donc, 20 millions d'euros permettent de débloquer 400 000 capteurs de CO2. On a fait notre petite division gentiment pendant
Merci
ce temps-là.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était aimable.
Mais oui, l'école, c'est du sérieux, c'est bon pour les enfants, nous a dit le ministre de l'Éducation nationale. Vous restez avec nous, Jean-Michel Blanquer, puisque vous êtes ce matin dans l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Il est très exactement 7h55.
Bonjour Philippe. Bonjour.
Oui, Jean-Michel Blanquer est resté pour votre chronique. C'est la deuxième fois que vous vous retrouvez.
Tout à fait, on s'est vu quand le 27 août, je crois. C'est bien de faire un petit bilan en fin de trimestre. Donc on a le petit Jean-Michel. Alors le proviseur Emmanuel Macron est content de vous, c'est bien. Madame la proviseure Brigitte est très contente aussi, un petit Fayot. Il est bien. Allez, on est pas mal, on est pas mal. Sauf en EPS.
Ah bon ?
Oh là là là, en Marelle, vous n'avez pas progressé. 4 sur 20. Latin et grec, vous avez annoncé un grand plan. C'est bien ça, bravo, ça j'aime bien. J'ai mis 14. Bon, cela dit, est-ce vraiment utile le latin, Yves ? Suffit de lire une copie de lycéen pour se rendre compte que le français est déjà une langue morte. En tout cas, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire en retard. Hein. Alban ne l'a pas fait, vous avez eu 57 ans le 4 décembre. 57 ans et encore à l'école. Oh là là, on n'a pas affaire à un surdoué. Hein. Alors perso, j'ai quitté l'école à 15 ans, Yves. Oui. Je suis... haut potentiel. C'est ce qu'on dit aux parents d'abrutis pour les consoler. Il est tout ça. Ouais, il est haut potentiel. Il comprend rien, il est haut potentiel. Il est surdoué. Maintenant, c'est un con. En tout cas, on a un ministre, Yves, qui se bat contre le fléau de l'école actuelle.
Les salaires des profs.
Pas du tout. Ah bon. Ils font pas ça pour le pognon.
Bah alors, les classes surchargées.
Non plus. Bah, ils sont jamais.
De personnel.
Ils sont jamais plus de 45 par classe. Enfin.
La baisse du niveau des élèves, peut-être.
Mais non, le wokisme. Ah. D'ailleurs, c'est la première chose que vous dit un prof parti en dépression après 3 mois de cours. Autant les conditions de travail, le salaire, les parents d'élèves, super, tout allait bien, oui. Jusqu'à ce qu'on me demande d'expliquer l'homosexualité aux enfants. Heureusement que Éric Zemmour en a parlé dimanche à Villepinte, il y avait une grosse ambiance. Oui. Bon, après, j'ai pris une chaise dans l'œil en tapant sur une antiraciste, j'ai été évacué vers l'infirmerie, j'ai pas vu la fin.
Alors, le sujet du moment, c'est la vaccination des enfants, elle divise, certains parents d'ailleurs sont inquiets.
Alors, attention Yves, certains parents sont inquiets, seulement ceux qui aiment leurs enfants. Il y a tout un tas de Il y a tout un tas de parents qui ne sont pas plus attachés que ça. Ils savent après à peine les prénoms. Attends, Britney, Kelly, Christopher, Jordan. Oh merde, Jordan, c'est le chien. Alors, attention, je critique les parents, mais il y a de tout dans les profs. Il y a des profs de gauche et il y a des profs d'extrême gauche. Mettez les profs à 10 000 euros, comme le propose Anne Hidalgo, dans 6 mois, ils seront tous de droite. Hein. Alors, c'est vrai, c'est mécanique, c'est prouvé. Alors, il y a peut-être 2 ou 3 profs de droite, mais vous connaissez l'expression.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Merci, Jean Gabin.
Merci, Jean Gabin. Alors, hier, Olivier Véran, Jean Castex ont fait de nouvelles conférences à l'issue du Conseil de défense sanitaire.
C'est ça. Oui. Enfin, le retour des conférences de Castex et Véran. Oui. Un comeback aussi attendu que celui de Shirley Dino, Peter Sloan. Ou Romina Power et Albano. Ah, on les entend moins, ces deux-là. Oui. On a des auditeurs de 134 ans, il faut leur faire plaisir. Felicita, vous rappelez
Felicita. Oui, Felicita.
Jean Castex et Olivier Véran ont donc fait leur annonce hier sur BFM à 19h, pile à l'horaire de mon Yves Calvi, qui a donc clairement été payé à rien foutre hier.
C'est ça même.
Oh, on a tous écouté Jean Castex. Jean Castex, notre surveillant de baignade 5e vague. Jeannot a demandé aux entreprises d'annuler les moments de convivialité de fin d'année. Voilà, quel dommage. Qu'est-ce qu'on avait ri au pot de Noël de RTL quand Louis Baudin et François Lenglet ont fait des photocopies de leurs fesses qu'ils ont glissées dans la valise RTL. Oh. On se redirige vers un Noël et un nouvel an à 6 autour de la table. C'est très peu 6 autour de la table, sauf pour Xavier Bertrand qui n'a plus d'amis depuis une semaine. Lui, la difficulté, ce sera de trouver 5 personnes qui veulent dîner avec lui.
Bon, Philippe, je crois que pour terminer, les enfants ont des choses à dire au ministre de l'Éducation.
C'est normal, parole aux enfants, voilà, tout à fait. On va écouter la petite Lila.
Pourquoi mon maître, il est parti en dépression?
Alors, déjà, Lila, il ne s'est pas suicidé. Estime-toi heureuse.
Depuis que Yel est dans le dictionnaire, je fais pipi au lit.
Alors, c'est un vrai problème, le pipi au lit. Ça m'arrive aussi, mais pour d'autres raisons. On a une question du petit Jacob.
Elle est connue, ton amoureuse?
Oui, elle est connue, son amoureuse. Mais c'est personnel, Jacob. Quel mal élevé, ceci. Alors, Jean-Michel, vous n'avez pas avancé des vacances comme en Belgique. Et, malheureusement, on a la réaction des enfants.
Jean-Michel.
Excusez-les, c'est des enfants de profs, des enfants de gars de gauche. Hein. La prochaine fois, j'interviewerai des gamins du quartier de Neuilly. Hein. Alors, on se revoit, hein, Jean-Michel, on se revoit dans 3 mois. On met un dernier coup de collier pour enchaîner sur le deuxième quinquennat. Voilà. Oh, c'est la récré.
L'œil de Philippe Cabrivière.
Je file en récré, c'est là où j'étais le meilleur.
Oui, chaque matin, 7h55 et en direct. Et quand vous le voulez, en replay. Merci, à demain,
je vous en prie.
Bonne journée, monsieur le ministre, et bon travail.
On va parler météo avec vous maintenant, Louis Bodin. Il est 7h59.
Oui, et si ce matin on a une petite accalmie, un peu moins de pluie, on peut se dire, bah tiens, peut-être pas l'usage du parapluie. Non, prenez le parapluie parce que c'est vrai que la pluie, elle revient très vite. Elle est déjà sur la pointe bretonne. Elle sera sur toute la moitié ouest en milieu d'après-midi. Elle arrivera sur l'est en fin de journée. De la pluie en plaine, de la neige en montagne. Elle va tomber en abondance cet après-midi sur les Pyrénées, le Massif central et à partir de ce soir sur les reliefs de l'est. Au passage de cette perturbation, beaucoup de vent, 100 km/h sur le littoral de la Manche, 90 sur la façade atlantique. Et puis les températures, alors on a quelques gelées en ce moment à Avignon, tiens, à Charleville-Mézières, -1, -2 degrés. Cet après-midi, 4 à 6 degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est, 7 à 9 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 10 à 15 degrés, c'est un peu mieux dans la moitié sud.
Louis Bodin, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, l'effondrement cette nuit d'un immeuble à Sanary-sur-Mer dans le département du Var.
5 personnes sont toujours bloquées dans les décombres. On est sans nouvelles d'un couple et de son bébé. Étienne Baudu est sur place. Nous le joindrons dans quelques instants. Face à la 5e vague, le gouvernement appelle à la prudence mais refuse d'élargir les restrictions. Seules les discothèques resteront fermées 4 semaines.
Dans ce contexte, faut-il interdire les meetings politiques, vecteur potentiel de contamination? Ce sera notre débat à 8h20. Face à face, Philippe Juvin, Les Républicains, pour cette interdiction et Éric Coquerel de la France Insoumise qui plaide, lui, pour un maintien encadré.
Dans ce journal également, notre enquête sur le sport amateur gangréné par la violence, le foot notamment, avec ce passage à tabac d'un jeune joueur par des supporters ce week-end dans les Bouches-du-Rhône. L'Amérique dissuadera-t-elle la Russie d'envahir l'Ukraine? C'est tout l'enjeu de la réunion qui aura lieu ce soir entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Nous allons y revenir. Et puis, où en sont les candidats à la présidentielle dans la course au parrainage? RTL a fait les comptes et nous vous donnerons les derniers chiffres.
Dès la fin du journal, Cyprien Sini.
Un président de la 5e République à Vichy demain, une première depuis plus de 40 ans.
Et à 8h40, la face cachée de la Une avec vous, Isabelle Choquet.
Et on va être rock'n'roll ce matin avec les tribute bands. C'est du faux, mais on dirait du vrai et ça cartonne.
A tout à l'heure.
RTL Matin.
Mais pour démarrer ce journal, nous allons prendre à quelques semaines, à quelques jours, 17 exactement, j'ai compté, à 17 jours du réveillon de Noël, nous allons prendre la direction de Rungis, retrouver Pierre Herbulot qui s'est levé très tôt ce matin pour nous faire vivre l'effervescence de cet immense marché, le plus grand marché de produits frais du monde. Et vous êtes en ce moment au pavillon gastronomie, c'est le nom, Pierre, consacré au fromage et au foie gras, ça tombe bien.
Oui, et je peux vous dire que depuis 4 heures ce matin, on parle de tout ici, sauf de variants et de crise sanitaire. Les grossistes évacuent la discussion pour parler volaille. J'ai vu tout à l'heure de magnifiques chapons. Pour parler poissons et fruits de mer, il y avait des homards, mais j'ai préféré manger une superbe huître bien charnue et noisetée au petit déjeuner. J'ai vu des truffes splendides. Et puis j'ai croisé Yann Berson de la maison Dispéré au pavillon de la gastronomie.
On s'est concentré sur le bio avec une offre à la fois classique, avec de la truite française bio, avec du boudin blanc bio, et également des petites nouveautés comme une terrine de foie gras végétal et des insectes.
Et les insectes, c'est quoi ?
Ce sont des vers de farine qui sont élevés en France. Ah, là, on est dans l'original. On peut être dans du très classique, mais aussi dans des belles originalités.
Voilà, carrément. Ça, c'est pour ceux qui voudraient innover. C'est vrai qu'il faut pouvoir se démarquer. C'est évidemment la période la plus importante de l'année pour la plupart des grossistes ici. 17 dodos avant le réveillon, vous disiez Dominique. Pas question d'attendre. À Rungis, c'est maintenant que ça se joue.
Merci Pierre Herbulot en direct du marché de Rungis pour RTL.
8h03, 5 personnes sont donc toujours bloquées dans les décombres ce matin après l'effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer dans le Var.
Et l'on va retrouver quartier du Port, c'est là-bas qu'était situé cet immeuble. Étienne Baudu, Étienne, où les secours sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de libérer les habitants prisonniers des ruines.
Ah oui, ils sont dans un amas de gravats. L'immeuble s'est effondré sur lui-même après une forte explosion, donc entendue par les habitants peu avant 4 heures du matin. Les sauveteurs spécialisés sont sur place en train d'inspecter les décombres. Une équipe cynophile est également arrivée, évidemment à la recherche de ces 5 personnes qui seraient encore sous les décombres, dont un couple avec un jeune enfant, un bébé de 6 mois qui habitait au 3e étage. Alors, 2 personnes auraient été extraites, dont une inconsciente, sans savoir pour l'instant si elles font partie de ces 5 disparus. 4 personnes, elles, ont pu s'extraire avant et ont été évacuées vers l'hôpital. Alors certains témoins parlent d'une forte odeur de gaz avant l'explosion et juste après. Impossible à ce stade de savoir si le gaz est à l'origine de ce sinistre, même si cette hypothèse serait tout de même privilégiée par les secours.
Merci Étienne Baudu à Sanary-sur-Mer dans le Var pour RTL.
RTL 8h04, les discothèques vont donc à nouveau fermer pour 4 semaines minimum.
Et c'est la seule exception à la règle que s'est pour l'instant fixé le gouvernement, pas de restrictions supplémentaires. D'où la colère de David Zenouda, représentant des établissements de nuit de la capitale, avec cette impression d'être toujours les seuls à payer en dépit de toute cohérence.
Il a été constaté que les contaminations ont véritablement lieu entre les enfants de 0 à 12 ans. Ces gens-là ne vont pas en discothèque, que dans les discothèques, on est dans des lieux sécurisés, puisque contrôle sanitaire avec le contrôle de la carte d'identité. Si le gouvernement voulait tuer définitivement le monde de la nuit, c'est une bonne décision. Là, c'est l'annulation purement et simplement du 31 décembre, mais vous pensez que les Français, puisqu'ils ne se seront pas confinés, ne vont pas aller faire la fête dans les appartements, dans des soirées privées. Donc cette décision est complètement à l'inverse de ce qu'il fallait prendre.
Les propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL, le 31 décembre justement, mais le 24 aussi, et les rassemblements de famille ou d'amis. Jean Castex demande aux Français de les réduire face au nombre de contaminations en forte hausse. Mais pour l'instant, nous le disions, aucune fermeture, aucune jauge, aucune annulation. Le Premier ministre qui incite également à davantage de télétravail et qui annonce l'ouverture de la vaccination dès le 15 décembre pour les enfants de 5 à 11 ans dont l'état de santé est le plus fragile. Pour les autres, ce sera à partir du 20 décembre. Le protocole sanitaire enfin est renforcé dans les écoles primaires. Il passe en niveau 3, ce qui implique notamment pour les jeunes élèves le port du masque, y compris pendant la récréation.
Mesures graduées donc pour l'instant, mais qui ne suffiront sans doute pas, s'alarment déjà certains spécialistes.
Alors que les services de réanimation dans les hôpitaux se remplissent très vite, exemple à Clamart, près de Paris, où nous étions à 7h15 avec Odile Pouget, l'hôpital Antoine Béclair compte 10 lits de réanimation. Aucun patient Covid il y a 15 jours. Ils en occupent désormais la moitié. Et la fatigue du personnel se fait sentir. Stéphanie Gallia est cadre de santé. Elle gère plus de 80 personnes, infirmières et aides-soignantes.
La fatigue accumulée depuis 2 ans maintenant. Là où on se dit qu'on peut partir en vacances et enfin se reposer, ben non en fait. Il y a un plan blanc qui arrive, un état d'urgence et on est obligé de repartir au front. Ça devient de plus en plus dur pour eux. J'ai environ 1 à 2 arrêts par mois pour, par exemple, des cervicalgies, des douleurs dorsales. Et c'est vrai que le corps dit aussi stop.
Des propos recueillis par Odile Pouget à l'hôpital Béclair, donc de Clamart, dans les Hauts-de-Seine.
8h07, ils ont prévu de s'entretenir ce soir en visioconférence. Enjeu, sans doute, une partie de l'équilibre mondial.
Oui, Joe Biden et Vladimir Poutine, réunion cruciale pour l'avenir de l'Ukraine et donc sans doute, en effet, pour la stabilité du monde, alors que le président russe est soupçonné de préparer une attaque et peut-être même l'invasion de l'Ukraine dans les prochaines semaines, à charge pour le président américain de l'en dissuader. Hier soir, plusieurs pays européens, dont la France, ont rappelé leur détermination à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée, prémisse d'un nouveau conflit aux portes de l'Europe. C'est ce matin l'objet de notre brigade RTL. Avec vous, Émilie Beaujard, grand reporter au service étranger de RTL. Bonjour.
Bonjour.
L'avenir de l'Ukraine est donc au cœur des discussions alors que des milliers de soldats russes se massent ces dernières semaines à la frontière et inquiètent à la fois les États-Unis et l'Europe.
Oui, selon Washington et Kiev, plus de 100 000 soldats russes seraient en ce moment en train d'être déployés aux frontières avec l'Ukraine. Une provocation de trop et une réelle menace, estime le ministre de la Défense ukrainien.
Nos services de renseignement analysent tous les scénarios, y compris le pire. Ils notent que la probabilité d'une escalade d'envergure existe et la période la plus probable pour se préparer à l'escalade sera la fin du mois de janvier. J'insiste sur le fait que l'escalade est un scénario possible, mais pas inévitable. Notre tâche est de l'empêcher.
Que cherche Vladimir Poutine avec cette démonstration de force ?
Plusieurs pistes. Déjà, faire pression sur l'OTAN. En gros, Moscou veut avoir l'assurance que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne se fera pas. Ensuite, le président russe veut aussi répondre à ce qu'il considère comme des provocations, à savoir la présence accrue de l'OTAN en mer Noire et la livraison de drones turcs à l'Ukraine. Pour l'instant, Joe Biden prône le dialogue, mais il a déjà fait savoir qu'il ne se laisserait pas imposer des lignes rouges par Vladimir Poutine. La rencontre virtuelle de ce soir pourrait donc bien être mouvementée.
Et nous suivrons ça avec vous, évidemment. Brigade RTL, signée ce matin, Émilie Beaujard.
Dans un instant, les violences qui gangrènent le sport amateur, hein, rugby, football, c'est notre enquête ce matin. Nous reviendrons notamment sur cette bagarre générale samedi dans les Bouches-du-Rhône. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin. RTL Matin.
Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza et nous allons à présent revenir sur ce match de foot amateur. C'était donc samedi après-midi dans les Bouches-du-Rhône, match interrompu en raison d'une bagarre générale.
Avec des fêtes d'une extrême violence, vous allez l'entendre. La rencontre opposait le club de Berre-l'Étang à celui des Cailloles, à un quartier de Marseille. Ce sont des spectateurs de Berre, Hugo Hamelin, qui sont descendus pour s'en prendre physiquement aux joueurs de l'équipe adverse qui menait au score. Un jeune de 17 ans a été littéralement passé à tabac, Hugo.
C'est ça, dans la bagarre, l'un des joueurs agressés n'a pas réussi à atteindre les vestiaires pour se mettre à l'abri. Il a été roué de coups sur la pelouse, le tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Bilan, une cheville fracturée, cervicale touchée et 10 jours d'arrêt pour ce lycéen. Écoutez César, l'un de ses coéquipiers.
À un moment donné, étant donné qu'on gagnait 3-1, des supporters ont commencé à sauter par-dessus le grillage et ils sont venus sur le terrain et ils ont commencé à nous frapper, nous, à frapper mon entraîneur.
Donc vous êtes retrouvé à vous être poursuivi sur la pelouse.
À 11 contre 100, quoi, quasiment. Vraiment effrayant. Moi, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, personnellement. C'est allé beaucoup trop loin par rapport à un match de football, quoi.
Alors, des invasions de terrain préméditées comme ça, c'est très rare. Ici, Christophe, vous êtes l'entraîneur de cette équipe depuis 8 ans maintenant.
Honnêtement, j'ai jamais vu ça. On a passé un cap où je m'interroge, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à réaliser. Est-ce que c'est l'après-Covid ? Est-ce que c'est parce qu'on est Marseillais ? Berre, c'est à 30 km.
Le président de Berre-l'Étang, le club incriminé, a d'ailleurs dissous son équipe de moins de 18 ans, disqualifiée de toute compétition jusqu'à la fin de la saison.
Merci Hugo Hamelin. Une invasion de terrain qui en rappelle d'autres, malheureusement, chez les professionnels en Ligue 1, notamment. On assiste depuis le début de la saison à des scènes similaires. Chez les amateurs, menaces, bagarres, c'est quasiment tous les week-ends, parfois même avec armes. Même si cette fois, pour Éric Borghini, le président de la Ligue de foot en PACA, un nouveau cap a été franchi.
Il y a vraiment une cassure qui s'est produite, puisque là, au cas particulier, ce sont des pères de famille qui ont pénétré sur le terrain pour aller faire le coup de poing avec des jeunes ados, des gamins de 17 ans. Bon. Plus largement, ça interroge sur la société française et sur le niveau d'intolérance à la frustration que on peut rencontrer à l'heure actuelle dans la population générale.
Éric Borghini, le président de la Ligue de foot en PACA, propos recueillis par Hugo Hamelin.
8h13, la politique maintenant. Depuis ce week-end, le nom de tous les prétendants à l'Élysée est connu, ou presque.
Mais presque, oui, reste à savoir ce que fera l'actuel président, même si son choix ne fait guère de doute. Alors nous parlons là de prétendants, car pour être candidat, il leur reste encore une petite formalité à remplir, réunir les 500 signatures d'élus. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Je dis petite, mais pour certains, c'est une montagne à gravir. Vous avez enquêté Aurélie et vous tenez les comptes. Où en est-on exactement?
Alors, Anne Hidalgo, c'est bon, normal, le PS a un vaste réseau d'élus. Oui. Le communiste Fabien Roussel touche aussi au but pour les mêmes raisons et ça avance tranquillement mais sûrement pour Yannick Jadot. Valérie Pécresse n'aura pas de problème, LR a aussi un paquet d'élus. Pour Emmanuel Macron, ça sera aussi une formalité. Il fait d'ailleurs tout pour dépasser ses 1800 parrains de 2017.
Il y a d'autres candidats bien installés pour qui c'est moins évident.
Ah oui, c'est très dur pour Marine Le Pen, confie un proche, qui pointe un problème. Les noms de tous les parrains sont désormais publics. Le RN doit aussi gérer la concurrence d'Éric Zemmour, qui en revendique 250. Jean-Luc Mélenchon est à 300, mais il ne peut pas puiser cette fois chez les communistes qui parrainent leur candidat.
Alors, on imagine que c'est encore plus compliqué pour les petits candidats, même si je risque de me faire reprendre en utilisant cette expression, disons les candidats sous les 3% d'intention de vote dans les sondages.
Ah oui, c'est un parcours du combattant pour Arnaud Montebourg, Philippe Poutou du NPA qui en revendique 175, ou Nathalie Arthaud, même si Lutte Ouvrière y est toujours arrivée. Le parti animaliste se veut optimiste pour sa première participation, quand Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot sont un peu inquiets, d'autant qu'on parle de promesses à ce stade. Ah oui, ce sera aux élus d'envoyer les vrais parrainages au Conseil constitutionnel ou pas.
Enquête signée Aurélie Herbemont. Merci Aurélie. Vous évoquez à l'instant Valérie Pécresse, la candidate désormais investie par les Républicains, décolle dans les sondages. Plus 7 points dans le dernier IFO pour le Figaro. À 17% d'intention de vote, elle fait désormais jeu égal avec Marine Le Pen et se qualifie potentiellement pour le second tour. Du football, ce soir, PSG Bruges pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. Dernier match de poule. Peu d'enjeux sportifs pour les Parisiens, déjà qualifiés pour la suite de la compétition, mais qui auront néanmoins à cœur de rassurer leurs supporters après deux matchs nuls inquiétants. Étant en championnat, coup d'envoi 18h45.
C'était le journal de 8h avec Dominique Tenza et vous ferez le point de l'actualité à 9h.
À tout à l'heure.
Je compte sur vous. Dans un instant, Cyprien Sini, vous surfez avec le déplacement du président Macron demain à Vichy.
C'est un événement, c'est exceptionnel.
Sûrement, on n'installe pas le gouvernement à Vichy. Hein.
Ah. C'est exactement ce qu'il ne faut pas dire.
Allez, à tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Cher Cyprien, avant de retrouver notre débat, vous surfez, vous, avec le déplacement du président Macron, demain à Vichy.
Bah oui, c'est un événement, un symbole, et surtout, comme l'explique le maire de Vichy au HuffPost, eh ben c'est rarissime.
À part De Gaulle dans les années 50 et Giscard, aucun président de la République en exercice pendant le 5e n'est venu faire une visite présidentielle à Vichy.
Comme c'est bizarre, oui. Et encore c'est un passage éclair, Giscard.
Une réunion dont l'annonce a surpris et que Valéry Giscard d'Estaing a commenté lui-même cet après-midi à Vichy.
Il n'avait pas évoqué l'occupation et De Gaulle aurait crié « Vive Vichy !» pour réhabiliter la ville. Mais ce jour-là, pas de bol, le micro ne fonctionnait pas. Pas de bol, parce qu'évidemment, Vichy, ça reste malgré tout...
Mesdames, messieurs, monsieur le maréchal Pétain, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France.
Pétain en 1940 ou encore Laval en 42.
Nous avons eu tort en 1939 de faire la guerre. Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Oui, le régime de Vichy qui visiblement fait fuir les présidents de la 5e. Hein. Vichy ostracisé, pourtant Vichy c'est aussi...
Vichy Célestin, le tas Célestin.
Sauf qu'on a surtout eu des présidents soit pas du tout à l'aise sur le sujet, hein, comme François Mitterrand.
Ah oui. En 1940... L'État français, c'était le régime de Vichy. C'était pas la République.
Ouh là là, surtout ne confondons pas. Ou plus à même de regarder l'histoire en face, comme Jacques Chirac.
Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, secondée par l'État français.
Mais rien n'y fait. Et même si certains ont réussi à en rire et surtout à nous faire rire avec l'occupation...
Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier... J'ai dit
Ausweis. Gérard Jugnot, inégalable dans Papier fait de la résistance. Oui, ah oui, c'est formidable. Non. Eh bien, à Vichy, ils en ont marre à la casquette du régime. D'ailleurs, là-bas, on ne dit pas, surtout pas, régime de Vichy, non.
On est à Vichy, justement, c'est le truc qu'il ne faut pas dire. Il faut dire Pétain. Régime de Pétain, parce que c'est
très mal vu de dire le régime de Vichy.
Ah bah oui, et même Jean Castex s'est fait épingler. Hein.
Bon, on va dire le régime de Pétain et de 40, parce que le maire de Vichy, a raison, m'avait pris à partir en disant « Vous faites de la mauvaise publicité à ma ville ».
Eh oui, la plaie reste ouverte dans la ville thermale, comme le raconte cette responsable de l'Office du tourisme au HuffPost.
Il y a encore 2 ans, on est parti avec mes collègues à Paris au salon de tourisme, et quand on arrive sur notre stand, Maréchal, le voilà.
Ah, c'est malin comme blague, ça vous fait rire. Alors qu'il y avait aussi...
Pastille Vichy, le plaisir qui coule de source.
Et donc demain, Emmanuel Macron a surtout prévu de vanter la politique de relance gouvernementale, mais nul doute qu'en cette période préélectorale, un petit message bien senti aux Vichyssois, c'est comme ça qu'on dit, ne sera pas de mal sur la côte de popularité.
Oh, écoutez, bon, j'ai passé un excellent moment. On peut encore faire des cures à Vichy ?
Oui, absolument, c'est une très belle ville thermale. C'est magnifique.
Oui, donc, et se mettre au régime à Vichy. Donc, ouais. Va vous m'avez compris.
Allez.
Merci, Cyprien. Bon, ce soir à 18h40. Il est 8h21, nous allons débattre en plein cœur de la 5e vague de l'épidémie. Faut-il interdire ou réglementer les meetings politiques ? Bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Vous êtes maire Les Républicains de la Garenne-Colombes et chef des urgences de l'hôpital européen Pompidou. Et je salue Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel.
Bonjour.
Philippe Juvin, votre famille politique a d'ores et déjà fait part de l'annulation du premier grand meeting de sa candidature prévue ce week-end. C'est priorité à la santé chez vous ?
Oui, c'est une question de responsabilité. On voit bien qu'aujourd'hui l'épidémie explose et cette épidémie, eh bien, il faut la contrôler. Nous ne voulions pas organiser un cluster géant et donc nous avons préféré être des gens responsables et annuler le meeting.
Mais pour dire les choses simplement, vous pensez qu'il est inconcevable de réunir des gens masqués dans des salles ventilées avec le respect des gestes barrières élémentaires ?
Écoutez, je pense que d'un côté, il faut que la démocratie fonctionne, ça c'est une réalité, mais de l'autre, nous préférons prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, la situation est très critique, le nombre de cas augmente considérablement, le nombre d'hospitalisations, et on ne se voyait pas réunir plusieurs milliers de personnes ou dizaines de milliers de personnes dans un lieu clos, ça me paraissait totalement déraisonnable et c'est la décision qu'a pris Valérie Pécresse.
Éric Coquerel, vous comprenez la prudence, voire la sagesse de Philippe Juvin et de la droite ?
Écoutez, ils sont souverains par rapport à leurs décisions, mais oui. Moi je pense qu'il serait catastrophique que la vie politique française avant une élection de ce type se retrouve confinée et amoindrie. Hier j'étais dans un métro de la ligne 13 à Paris, oui. Très souvent, qui est saturé. Ça serait compliqué d'expliquer que d'un côté on laisse les gens continuer à aller travailler dans toutes les conditions et de l'autre côté on bride la vie démocratique du pays. Donc non, moi je pense vraiment que ça doit être des choses qui si des décisions de ce type étaient prises, ça ne pourrait être que pris qu'avec, j'allais dire, un ensemble de mesures dans la société qui empêcherait la contamination. Moi, je crois qu'on paye, très franchement, encore une fois, et c'est pas Philippe Juvin tout que je critique de ce point de vue-là, il a souvent des paroles très sensées, mais on paye de ce point de vue-là encore un défaut d'anticipation vis-à-vis de cette vague qui fait qu'on se retrouve dans cette situation.
Vous évoquez les mesures qui pourraient être prises dans la société. Peut-on être plus concret ? À quoi pensiez-vous ? Vous nous dites en gros ce matin sur RTL, avant d'interdire les meetings et la vie démocratique dans notre pays, faisons attention à bien d'autres choses. Je vous ai bien compris.
Écoutez, on voit bien maintenant qu'on ne va pas en finir immédiatement avec le Covid. Donc il faudrait prendre... Alors, première mesure, ce serait le fait de mettre le vaccin au brevet libre. Je dis ça... parce que à long terme, on va pas pouvoir sans arrêt faire en sorte que subir des variants qui vont remonter des pays du Sud, qui sont insuffisamment vaccinés, parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin. Tant qu'on ne fera pas ça, on va se retrouver avec des vagues successives. Et ces vagues successives, nous, on avait déjà proposé des choses. Par exemple, l'organisation d'une société en rotation. Par exemple, le fait de mettre plus de moyens dans les hôpitaux, qui fait qu'on craindrait moins des vagues qui submergeraient les hôpitaux. Tout ça n'a pas été fait, y compris d'ailleurs les conditions matérielles permises pour les personnes isolées afin qu'elles ne contaminent pas d'autres choses. Ça, c'est des choses à long terme. Au lieu de ça, on en arrive toujours à plus ou moins d'interdictions. Je pense que ce n'est pas la bonne solution.
Philippe Juvin vous répond.
Il n'y a pas de solution idéale. Et c'est vrai que le parallèle avec le métro est un parallèle qui est de bon sens. Éric Coquerel a raison de le dire. En même temps, pas de solution idéale. Les gens doivent aller travailler dans le métro, ils sont serrés. Mais ce n'est pas la peine de rajouter un risque au risque avec d'immenses meetings. Donc nous allons faire des réunions politiques en limitant le nombre, en demandant le pass sanitaire à l'entrée. Il faut déjà faire ça, vous voyez, mettre le masque. Moi, j'ai vu le meeting d'Éric Zemmour. Éric Zemmour arrive sans aucun masque, serre des mains, à voici, voilà. Et beaucoup de gens n'ont pas le masque. Vous voyez, si déjà à l'entrée des meetings, il y avait le pass sanitaire, si déjà les gens... mettait un masque, je pense que ça serait un élément qui permettrait à la vie démocratique de vivre un peu plus. Encore une fois, je partage l'avis d'Éric Coquerel quand il dit que la vie démocratique ne doit pas s'arrêter. C'est évident. Il faut maintenant trouver... c'est toujours une côte mal taillée, mais c'est mieux, encore une fois, de contrôler à l'entrée que de laisser faire.
Puisqu'on en est à contrôler à l'entrée, Éric Coquerel, est-ce que vous allez demander un pass sanitaire dans les futurs meetings que vous souhaitez maintenir ?
Bah pour l'instant, les passes sanitaires, vous savez que c'est de les demander à l'entrée des meetings n'a pas été suffisant constitutionnel. Donc voilà, en plus de ça, nous sommes, vous le savez, nous ne pensons pas que le pass sanitaire soit la solution. Pourquoi ? Parce que on sait très bien maintenant, alors de manière moindre, c'est vrai, mais avec la plus grande contamination des nouveaux virus, des nouveaux variants, on ne sait pas à quel niveau, mais on sait malheureusement que vaccinés, on peut continuer à transmettre la maladie. Donc moi, je crois plutôt qu'il faut les gestes barrières, les masques, des conditions effectivement d'espacement entre les personnes. Je pense que c'est plus efficace que le pass sanitaire qui est parfois une fausse sécurité.
Philippe Juvin.
Le pass sanitaire n'est pas garanti, c'est pas garanti à 100%, mais ça réduit évidemment le risque de transmettre et d'attraper la maladie. J'entends quand on dit que ce n'est pas constitutionnel, en réalité c'est plus complexe que ça. Le Conseil constitutionnel a dit que le gouvernement n'avait pas le droit d'exiger un pass sanitaire.
Oui, mais des organisateurs peuvent en prendre l'initiative, comme dans un restaurant.
Absolument, quand vous êtes chez vous, vous pouvez recevoir des amis et exiger, si ça vous dit, de demander le pass sanitaire. Donc un parti politique peut demander le pass sanitaire, il n'y a pas d'interdiction à cela. Je crois même que c'est la sagesse, comme je crois que c'est la sagesse que les gens soient masqués, comme je crois que c'est la sagesse de ne pas avoir d'immenses manifestations, comme je crois que c'est la sagesse de ne pas être idéologue en la matière. Je ne dis pas du tout qu'Éric Coquerel là, il n'est pas du tout idéologue, mais vous voyez, j'ai comparé les deux images, je me suis intéressé à voir l'image de Mélenchon et l'image de Zemmour.
Ça n'avait rien à voir.
Oui, Mélenchon
moi
arrive
aussi, j'ai regardé les deux.
Avec son masque, Zemmour arrive sans masque. Oui. Déjà, ça, pardon, mais c'est un sujet.
L'enjeu est majeur, Philippe, Éric Coquerel, on vote dans 4 mois pour élire notre président de la République, président ou notre présidente d'ailleurs.
Oui, mais c'est bien ça le problème. En fait, j'allais dire qu'on est dans une situation, encore une fois, je reviens là-dessus. On sait qu'il y a une cinquième vague, il y en aura une sixième, véritable, manifestement avec le vaccin qui vient d'Afrique du Sud. Je de ce point de vue-là, je préfère l'éviter, mais je crois que ça sera ça.
Vous et m'avez dit le vaccin, là, je pense que vous vouliez dire le variant.
Oui, pardon, le variant, excusez-moi.
Non, non.
Le vaccin, ça serait bien si l'Afrique du Sud
était capable
d'avoir accès au vaccin de manière plus normale. Donc, il va falloir arriver à gérer à la fois ce danger, cette épidémie, et en même temps essayer de conserver au maximum, j'allais dire, les activités les plus importantes de notre société. Et la démocratie, le fait que nous est évidemment, notamment avant les élections, une activité essentielle.
Oui.
Voilà, nous, c'est ce qui nous préoccupe. Il faut arriver à trouver le bon équilibre, mais encore une fois, aussi prendre des mesures pour que, j'allais dire, dans le temps, ce virus soit moins dangereux, qu'on soit moins facilement contaminé et qu'on arrive à arriver à vivre sans un danger, notamment létal, qui est le problème aujourd'hui.
Vous êtes chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Quelle est la situation avant de nous séparer dans votre service, Philippe Jupp?
Elle est très mauvaise partout en France. On a actuellement une cinquième vague. Alors, la vague, ce n'est pas l'Omicron. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le variant Omicron.
C'est bien le Delta.
C'est bien le Delta, malheureusement, entre guillemets, puisque derrière, on a l'Omicron qui peut arriver. Elle est catastrophique. Pourquoi? Parce que nous avons moins de lits disponibles qu'il y a un an et demi, parce qu'il y a eu du personnel qui est parti, fatigué, usé. Il faut vraiment que nous formions beaucoup de personnel, beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de masse de manœuvre, donc moins de lits disponibles pour les patients Covid qui sont en train d'arriver et qui reviennent, mais surtout moins de lits disponibles pour tous ceux qui n'ont pas le Covid et qui continuent à être malades parce que le pays continue à tourner. Donc oui, je vous dis qu'il y a une situation de grande dégradation de l'hôpital public. Durant la primaire de la droite, j'en ai beaucoup parlé. Je pense que c'est un sujet absolument majeur. Il n'y a pas de pays prospère quand on ne sait pas soigner les gens. Vous voyez, il faut que les gens se soignent pour que le pays soit prospère.
Merci beaucoup, Philippe Juvin. Les Républicains de la Garenne-Colombes, chef des urgences de l'hôpital européen Pompidou. Et merci à Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, d'avoir débattu sur les mesures à prendre dans les jours à venir, notamment concernant les meetings politiques. Dans un instant, on va retrouver Louis Baudin pour notre météo à 7 jours sur RTL. Bonne journée à tous, il est 8h30. Merci de votre fidélité.
RTL Matin.
RTL Matin. Il est 8h33.
Oui.
La météo à 7 jours, je vous prie, Louis Baudin.
Oui, eh bien avec de l'humidité et du froid essentiellement, même ça devrait se finir un petit peu mieux. Alors on l'a dit aujourd'hui, une perturbation est en train d'arriver par l'ouest, beaucoup de pluie sur la Bretagne, elle va traverser toute la France entre cet après-midi et la nuit prochaine où elle donnera beaucoup de neige sur tous les massifs de l'Est, dès 700-800 mètres. D'ailleurs demain, ça continuera avec un régime d'averse. Alors la différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il y aura quand même quelques éclaircies. Mm-hmm. On verra un petit peu la lumière entrecoupée de passages nuageux, d'averses, parfois accompagnées d'orages, donc des averses sous forme de pluie, de neige en montagne dès 600-700 mètres seulement sur tous les massifs toute la journée. Il y aura toujours du vent, notamment près de la Méditerranée où on aura un petit peu plus d'éclaircies. On passe à la journée de jeudi, on aura de nouveau une perturbation qui devrait traverser la France plutôt en deuxième partie de journée avec des nuages, de la pluie, de la neige en montagne. Même chose pour la journée de vendredi. Et puis à partir de samedi, quand même, il pourrait y avoir une petite accalmie.
Ah.
Hein, oui. Avec certes beaucoup de nuages, mais un petit peu moins d'averses, et ça sera encore plus vrai pour dimanche. Ou si ça se confirme, on devrait avoir des conditions anticycloniques. Alors on sait ce que ça veut dire, des brouillards, des nuages le matin. Mais l'après-midi, l'espoir d'avoir quelques éclaircies et surtout moins de précipitations. Parce que là, on enchaîne quand même, hein, les perturbations.
Une marche dans les bois est peu agréable,
et
peut-être voilà, possible
peut-être
dimanche après-midi.
Dimanche après-midi, exactement, avec un petit rayon de soleil et une petite température un petit peu moins basse. Et ça semble durer un peu pour la journée de lundi également.
On ira ramasser des marrons.
Voilà.
Voilà, bah Louis, ce programme me convient tout à fait. Je vous emmène aux États-Unis.
D'accord.
RTL autour du monde.
Mardi dernier, dans un lycée du Michigan, un adolescent de 15 ans tuait 4 élèves de 14 à 17 ans aux États-Unis. Son arme semi-automatique était un cadeau anticipé de ses parents pour Noël. Depuis le drame indigne, bien entendu, une partie de l'Amérique. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Fait extrêmement rare, hein. Les parents sont poursuivis et même le rôle de l'école fait débat.
Oui, alors les parents, tout d'abord, en écoutant l'acte d'accusation, ils ne s'attendaient pas à être poursuivis pour homicide involontaire. Détenus dans la même prison que leur fils, leurs photos en tenue de prisonnier, le regard glacial, sont dans tous les journaux. Il faut savoir que le couple a disparu pendant plusieurs heures, considéré comme fugitif. Ils ont même retiré 4 000 $ avant d'être arrêtés. La justice veut montrer l'exemple, car beaucoup d'Américains sont choqués par le bilan, par l'âge des victimes et du tueur présumé, par ces images d'élèves fuyant en panique leur salle de classe, choqués aussi par des témoignages comme celui de Ravon, 15 ans, interrogé par CNN et qui apprend en direct le quatrième décès d'un de ses camarades.
Je connaissais Justin, dit-il, Justin Schilling, 17 ans, le quatrième mort qui a succombé à ses blessures. La fusillade a également fait 6 blessés.
Sur quels événements la procureure s'appuie-t-elle afin de poursuivre les parents pour homicide involontaire ?
Eh bien déjà parce que le pistolet semi-automatique était un cadeau des parents, acheté pendant le Black Friday pour aller au pied du sapin de Noël. Même aux États-Unis, un mineur n'a pas le droit de posséder une arme, sauf club de tir, mais il n'était a priori pas membre. Autre élément, la veille du drame, un enseignant surprend l'adolescent qui cherche à se procurer des munitions sur Internet. Les parents sont convoqués. La mère envoie alors ce message hallucinant à son fils, un SMS lu par la procureure.
LOL, je ne suis pas en colère contre toi, mais évite de te faire prendre.
Les parents plaident non coupables et les enquêteurs se demandent si le lycée n'aurait pas manqué de vigilance car ils avaient des motifs légaux de fouiller le sac à dos et le casier du suspect. En effet, la veille, un professeur avait également vu l'adolescent dessiner une arme et un corps ensanglanté. En tout cas, ce nouveau drame n'a pas choqué tout le monde. Ce week-end, Thomas Massey, un élu républicain du Kentucky, a publié une photo indécente de lui, sa femme et 5 membres de la famille. Ils sont devant leur sapin de Noël, armes de guerre à la main, avec cette légende, Père Noël, apportez-nous des munitions.
Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis. RTL autour du monde, à retrouver sur notre application mobile. La face cachée de la une, avec Isabelle Choquet, c'est dans un instant.
RTL Matin, la face cachée de la une.
Mais oui, il est 8h39 et on vous retrouve Isabelle Choquet pour parler d'un incroyable succès qui passe quasiment inaperçu, les Tribute Bands. Expliquez-nous.
En français, on dirait groupe hommage, Yves, ou groupe de reprise. On en compte près de 20 000 dans le monde. Ils copient le look et les chansons des plus grands groupes de l'histoire du rock et ils jouent à guichets fermés partout où ils passent. Le magazine Marianne s'est penché sur le phénomène. Les Tribute Bands, ça a commencé à Londres, à Los Angeles, des armées de faux Beatles, de faux Doors ou de faux Nirvana. Chez nous, ça a mis du temps à décoller, mais depuis 5 ou 6 ans, c'est la folie. On vient d'applaudir One Night of Queen, ABBA Mania ou The Rocketman, autrement dit des ersatz de Queen, ABBA ou Elton John et bien d'autres. Des appellations un peu faux cul, oui. Mais c'est une obligation légale, hein. Interdiction de se produire avec le nom du vrai groupe. Il faut aussi déclarer des droits. Le groupe original touche 8,8% du chiffre d'affaires, c'est précis. Et interdiction de toucher aux arrangements, mais ça tombe bien, les fans viennent pour ça, entendre exactement ce qu'ils connaissent. Chez nous, les pionniers, ce sont les Rabbits,
ah oui,
un groupe de faux Beatles, voilà, vous connaissez, qui est apparu à la fin des années 90, mais aujourd'hui, le leader du genre, c'est le producteur Richard Walter, qui a pourtant failli passer à côté. Il y a une quinzaine d'années, son agent anglais lui propose de venir à Londres pour entendre une copie de Led Zepp. Walter refuse à prendre l'avion pour voir une doublure et puis quoi encore ? L'autre insiste. Au bout de 3 chansons, j'étais scotché, dit Walter. Robert Plant himself, qui était venu écouter son clone, a écrit dans le livre d'or « Je me suis vu sur scène ». Alors je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, mais en voyant grand. C'est comme ça qu'il met la main sur One Night of Queen avec un certain Gary Mullen, plus Freddy que Mercury lui-même. Je le convainc de tenter l'aventure en France avec tout le barnum des concerts historiques de Wembley. Paris tenu, la mère de Mercury est venue et elle lui a dit « Grâce à toi, j'ai vu mon fils ». Les possibilités sont infinies. Ou presque. Pour les Rolling Stones, ça va être coton, dit Walter. Mon problème, c'est de dégoter un Keith Richards, parce que trouver quelqu'un qui joue aussi mal de la gratte et le faire aussi bien, c'est un foutu talent. Idem pour Jagger, qui ne sait pas chanter. D'ailleurs, c'est à cause de ça que les Stones sont très peu repris, ils sont trop atypiques. Au début, pour ce Walter, on me disait « Personne ne déboursera entre 50 et 80 euros pour un spectacle de clown. 15 euros max, ce serait déjà cadeau. » Ceux qui faisaient la fine bouche ne ricanent plus. Un spectacle s'amortit autour de 2500 personnes. One Night of Queen, c'est 3500 spectateurs en moyenne à raison de 250 concerts par an. Une affaire en or. En plus, pour les producteurs, c'est confort. Hein, pas de caprice de star, zéro problème d'ego. Gary Mullen ne voulait pas être une star, il voulait être Mercury. Grosse nuance. Jamais il n'aurait pu imaginer un jour chanter devant 100 000 personnes à Hyde Park. Les groupies sont plutôt des quinquas, mais de plus en plus de jeunes viennent grossir les rangs. Richard Walter en est convaincu, même les tournées d'hologrammes ne stopperont pas le succès des Tribute Bands.
Vous avez réussi le miracle de m'intéresser à quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas, les Tribute Bands.
Je suis très
fière. Ah oui, ça, franchement, je peux vous dire que bravo. Allez, on se retrouve demain matin.
À demain,
bonne journée.
RTL.
Vous êtes comme ça.
Et ce matin, RTL vous emmène sur le ring, celui de la lutte contre le cancer, avec des cours de boxe pour aider les malades à limiter les effets secondaires des traitements. Ça se passe à Marseille, dans une maison du bien-être, ouverte à la rentrée, et qui propose différents ateliers. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes donc parti à la rencontre de femmes courageuses qui ont décidé de se battre pour accélérer leur rémission.
Droite, gauche, crochet. C'est pas encore la furie de Mike Tyson, mais elles ont déjà l'œil du tigre. Christelle et Nadia, la cinquantaine, ex-malades qui viennent ici chasser leur douleur, améliorer leur tonicité, leur flexibilité.
On n'a rien fait, enfin, on a eu que de la fatigue pendant un an. En gros, un an de traitement, un an de fatigue. On est à l'hôpital le matin, on dort l'après-midi. Voilà. Et donc là, ça permet de récupérer des muscles, de l'énergie et puis surtout de la bonne humeur.
Faut plier dans le même axe.
Comme ça?
Ah, d'accord.
Oui, il y a des personnes qui vivent seules à la maison. Quand on reste toute seule à écouter ses douleurs et ses trucs, franchement, là, on échange, on voit d'autres patientes qui ont le même truc, le même parcours. Parce que on se dit qu'on n'est pas seul. Ce que je retrouve là, pour moi, c'est ma deuxième maison.
Dans cette salle, on pratique le shadow boxing, les mouvements de la boxe. La priorité, c'est de retrouver ses capacités physiques quotidiennes. Lucille, éducatrice en sport adapté.
Il y a beaucoup de problèmes d'amplitude d'épaule qui sont liés justement au cancer du sein directement, et de pouvoir travailler comme ça en douceur, en amplitude, ça permet de retrouver des mouvements qu'on était capable de faire avant, qu'on a des difficultés, des douleurs à faire, et maintenant en douceur ça revient et petit à petit il y a plus de confort.
Et ça aide pour porter les sacs de course ou se promener plus longtemps. Cette maison unique en France, créée par la Ligue contre le cancer, elle est décorée comme un appartement cosy, c'est très coloré, très chaleureux, avec des cours de cuisine deux fois par mois, du yoga, un coiffeur. L'idée c'est de se sentir chez soi pour les patients, mais aussi pour les soignants et pour les intervenants.
Alors dans cette maison, les femmes boxent et se retrouvent pour s'échanger les bonnes adresses et les conseils. Mais les hommes qui ont été touchés par un cancer, où sont-ils, Hugo ?
Eh bien, ils se terrent, ils se cachent, ils ont honte de leur maladie, bien souvent. Ils sont peu nombreux à passer la porte de ce genre de structure. Magali Mogéry est la directrice locale de la Ligue contre le cancer.
Très peu d'hommes, et on souhaiterait effectivement que les messieurs viennent dans ce lieu pour pouvoir bénéficier de toutes ces activités.
Pourquoi ils ne viennent pas ?
Peut-être par peur. Aussi dans le déni aussi, de se dire non, je ne veux pas en parler. Et l'homme est plus en retrait qu'une femme qui va aller plus à la recherche d'informations, d'aide, etc. Donc il faut effectivement se bouger, rencontrer d'autres personnes, se faire du bien et prendre conscience qu'on a un corps et qu'il faut savoir l'écouter, tout simplement.
Pour briser la glace, elle prévoit de s'associer avec les Barbiers de Marseille, sorte de porte-parole pour libérer la parole des hommes dans un premier temps et les faire monter sur le ring de la rémission dans un second.
Merci beaucoup Hugo Hamelin, RTL à Marseille. Laurent Gérard sera avec nous dans un petit instant, accompagné de sa petite camarade de classe, Jade. Elle est gentille, cet enfant.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Un conseil de défense sanitaire a eu lieu hier. Et...
Salut pêcheur.
Bonjour professeur Raoult. Je rappelle que vous êtes le sosie officiel de Patrick Sébastien, mais aussi un célèbre épidémiologiste, et oui.
Putain, j'aime bien quand tu me mouilles la compresse, pitchoune.
Parlons plutôt des mesures prises suite au conseil de défense qui...
Fonde de pied On s'attend pas à le coquillard de ces ronds de cuir de la capitale. Moi, je vais t'emmener dans mon conseil à moi, où on prend de vraies décisions contre le Covid. Tu me suis, pitchoune?
Eh ben, allons-y.
Combien je voudrais?
Oui, attendez, on est où là, professeur?
Mais dans mon labo marseillais, le bar des sports. On a lieu sans même le conseil de défense.
Non, de défense.
Hein, qui est présidé par mon collègue Dédé la Sardine. Allez, vas-y Dédé, dis à la pitchoune ce qu'il faut faire avec le nouveau variant.
Le variant Omicron.
Oui, on a compris. Le variant Omicron, on dit.
Non, le variant Omicron-onde. Si tu le mets, le variant Omicron-onde, et là, il meurt.
Oh, il est génial, mon Dédé. T'as vu, c'est sa rigueur scientifique.
Oui, c'est n'importe quoi, hein.
Si,
c'est
rigueur.
Je veux que le pass
sanitaire.
Non, le pastaga soit servi bien frais.
Du pastaga et de la chloroquine, c'est ça qu'il faut contre le Covid. Et tu sais pourquoi?
Je le crains.
Parce que la chloroquine, c'est que de l'amour.
Bonjour madame.
Ah tiens, Marine Le Pen, bonjour, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur?
Je promenais mon chat dans le quartier et j'ai vu qu'il y avait de la lumière à la rédaction d'RTL. Je me suis dit,
on va
passer vous donner des nouvelles. Mon voyage en Pologne par exemple.
Je ne sais pas si on va avoir le temps, hein, madame Le Pen. L'actualité politique est très chargée avec la désignation de Valérie Pécresse. Ah, il m'a fait peur.
Madame, c'est le bruit que fait mon chat quand un autre chat veut lui piquer ses croquettes.
Bon, ben, je crois qu'on voit l'image. Vous pensez que Valérie Pécresse pourrait vous concurrencer?
Il y a une blonde de trop dans cette campagne, madame. Oui. Au débat de l'entre-deux-tours, il y aura un seul siège pour deux faces à Macron. C'est le mien, madame.
Que comptez-vous faire face à Valérie Pécresse, en fait?
Multiplier les coups de griffe, madame.
Retrouvons maintenant Jean-Michel Apathy qui, comme chaque jour, anime son émission sur LCI.
Bonjour et bienvenue dans les Experts Apathy, le rendez-vous journalistique impertinent et sans langue de bois qui reçoit justement aujourd'hui une journaliste aussi rigoureuse qu'opiniâtre. Bonjour Élise Lucet.
Bonjour Monsieur Apathy.
Après avoir traqué sans relâche les corrompus, les escrocs dans Cache Investigation, vous avez fait tomber l'ancien animateur de télévision et ministre Nicolas Hulot en donnant la parole aux présumées victimes de ces agressions sexuelles. Êtes-vous prête à tout pour faire éclore la vérité?
Pourquoi? Vous avez quelque chose à vous reprocher, vous?
Permettez-moi de vous dire que je trouve votre réponse très agressive, alors que je vous reçois pourtant de la plus parfaite cordialité.
Ouais, ouais, c'est ça. On connaît la technique. Hein. Je peux voir votre passe sanitaire?
Mais enfin, c'est aberrant. Je n'ai pas traîné mes guêtres depuis 40 ans dans la rédaction les plus prestigieuses de France et de Navarre pour me faire interroger comme un vulgaire malfrat par une journaliste qui se prend pour une gendarmette.
Passe sanitaire, j'ai dit. Et montrez-moi aussi vos papiers, votre dernier avis d'imposition. Hop, 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 et que ça saute.
Je préfère encore rendre l'antenne plutôt que de poursuivre cet interrogatoire répugnant. Je n'ai pas à répondre aux injections contaminatoires d'une journaliste hystérique.
Et allez, outrage à agence, ça va te coûter cher, mon petit bonhomme. Allez, hop, menottes.
Mais arrêtez, mais enfin c'est aberrant.
Emmanuel Macron a rencontré le pape François il y a une dizaine de jours et c'est plus tard, vidéo à l'appui, qu'on a découvert que le président de la République avait tutoyé le Saint-Père. Nos micros étaient bien sûr au Vatican.
Brigitte, Brigitte, c'est trop cool d'aller voir le pape. Il est top momo de Francesco.
Mais calme-toi Emmanuel, on est au Vatican ici, pas à la fête du slip. Tu es bien poli avec le Saint-Père.
Mm-hmm. Mais oui, t'inquiète Brigitte, je lui dirai comme tu m'as appris. Bonjour monsieur et au revoir monsieur.
Non, certainement pas. C'était bien la peine que je te fasse du catéchisme à la Providence.
Bonjour,
je vois
madame.
Que tu n'as rien écouté, je ne te félicite pas. Tu diras votre sainteté ou très Saint-Père. Mais c'est ringard Brigitte.
Dos minutos, Manuel. Il en fait ma robe et échoue à toi. En l'autre, il met une robe.
Tiens-toi bien, mon sang.
Entre les enfants. Bonjour mon fils. Oh et l'autre, il se prend pour mon fader. Salut poteau, ça farte, Givify, je te kiffe frérot.
Oh mon Dieu, pardonne le Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait.
En tournée partout en France, notre ami Patrick Bruel profite de ses concerts pour faire passer des messages sanitaires. On en parle avec lui. Bonjour Patrick.
Tu vois, c'est ce genre de cri que je pousse quand je suis sur scène et que je m'adresse au public.
Oui, vous ne vous contentez pas de crier, vous prenez position en ce qui concerne le Covid.
C'est vrai, j'ai souffert du Covid dans ma chair. Souvenez-vous, j'étais obligé de faire des vidéos en survêt avec ma guitare devant ma bibliothèque. J'ai pris 10 kilos dans des restaurants clandestins, je me suis fait vacciner 17 fois.
17 fois? Mais a priori, 3 doses suffisent pour le moment.
Eh, je sais, mais on est jamais trop prudent. Et puis, je me suis vacciné en tant que chanteur, en tant qu'acteur, en tant que joueur de poker international, en tant que restaurateur, en tant que producteur d'huile d'olive, en tant que tout.
C'est donc pour ça que vous avez lancé cet appel à votre public, je vous cite. À l'occasion, vous direz à vos copains qui ne veulent pas se faire vacciner qu'ils nous saoulent.
Ouais, je sais, j'ai pris des risques énormes, surtout auprès des jeunes de moins de 60 ans. J'en ai aussi dans mon public, mais tu vois, c'est ça être un chanteur engagé. Il ne faut pas avoir peur de déranger. J'ai même fait une chanson qui a le droit, qui a le droit, qu'on le pique pas.
Ah, on a de l'entendre. Dans vos concerts, vous tenez également à rappeler les gestes barrières. Hein.
C'est pas important. C'est hyper important, les gestes barrières. Ouais. Crier dans son coude, se moucher dans son masque. Respecter la distanciation physique avec les fans qui veulent te rouler des pelles.
Ah, écoutez, merci beaucoup pour tous ces rappels, Patrick, et bonne tournée.
Attends, j'ai pas fini. Il y a d'autres gestes barrières. Il y a un autre geste barrière qui est vachement important pour éviter les ennuis.
Ah, allez-y.
Quand tu te fais masser les fesses, tu mets toujours un string en papier.
Oh,
Oh, écoutez, bon.
Toujours.
Oh bah oui, quelle équipe. Allez, on vous retrouve demain matin avec grand plaisir. Et d'ici là, sur le site rtl.fr, dans un instant, on sera avec vous, Cyril Lignac, avec une... Vous préparez un truc aujourd'hui qui me plaît beaucoup. Mais auparavant, mais oui, absolument, gratin de champignons. Mais on va tout de suite retrouver Pierre Arbulot, qui depuis 4h30 ce matin est à Rungis, en quelque sorte votre seconde maison. Pierre, une dernière fois, vous êtes avec Jonathan Griveaux. Qu'avez-vous dans votre panier avant qu'on se sépare?
Ah bah j'ai beaucoup de choses Yves, j'ai des magnifiques volailles parce que vraiment le pavillon des volailles c'est un endroit formidable, on a vu des énormément de variétés, des chapons, des dindes, des oies, il y avait du foie gras, on a vu des truffes, on a même vu du caviar, du champagne, c'est assez extraordinaire. Et puis on a vu des fruits de mer aussi, hein. J'ai mangé des huîtres autour de 4h du matin, je vous le recommande, ça réveille. Et puis enfin, on a rencontré des grossistes qui innovent en proposant des insectes. Et là, je voudrais lancer un défi à notre ami Cyril Lignac qui est avec vous en studio, nous faire un petit plat autour de l'apéro avec ces fameux vers de farine. Il paraît que ça a un goût de noisette et de champignons. Cyril ?
On va faire un petit gratin de champignons d'ailleurs.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que les insectes, je sais qu'il y a une espèce de nouvelle mode autour de ça. Bon, moi j'en ai mangé. Alors souvent on dit que ça a goût de noisette, de champignons. Et c'est vrai que c'est assez particulier, quoi. Donc, tant mieux si les gens aiment ça, mais...
Bon, alors si vous le voulez bien, Pierre, nous, on va en rester aux champignons classiques avec un gratin dans un instant.
Voilà, ça paye.
Et je vous remercie de nous avoir fait vivre cette matinée. C'était à chaque fois merveilleux et ça nous aide à préparer nos fêtes. Revenez-nous vite avec un panier bien plein.
Ça marche, merci.
Dans un instant, le gratin de champignons de Cyril Lignac.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bon, moi, je pense tout le temps à ce que je vais manger grâce à vous, Cyril Lignac. Alors, Eric, Mandelieu-la-Napoule, déjà, ça commence bien. Il voudrait vos astuces pour préparer un gratin de champignons pour sa femme Caroline. Vous voyez, il est attentionné, dont c'est l'un des plats préférés. Faites plaisir à ce petit couple.
Alors, ça se compose en trois parties. La première, on fait revenir des oignons émincés qui vont nous servir à mettre au fond du plat. Donc, on fait revenir les oignons avec du beurre, un petit peu d'huile pour pas que ça brûle. On caramélise. Là, c'est la pleine saison des oignons de Roscoff. Donc, on prend, on ajoute un tout petit peu de sucre pour les caraméliser. On les dépose au fond du plat à gratin.
Au fond du plat.
Ensuite, on prend d'autres champignons qu'on fait revenir à la poêle. Alors là, on fait avec de l'ail, du persil. Et là, on les fait caraméliser toujours avec une noisette de beurre demi-sel. On les dépose une fois que c'est cuit au fond du plat.
Deuxième couche.
Et ensuite, on va se faire une petite crème. Donc, on reprend des champignons que l'on fait poêler avec des échalotes. À ça, on déglace avec du vin blanc. On ajoute un petit peu de porto, de la crème fraîche. Et là, on laisse plot-ploter. On mixe. Et là, ça nous fait une crème épaisse que l'on dépose sur les champignons. Un petit peu de parmesan râpé ou du comté. On met au four, 190 degrés. 15 minutes, le temps que ça gratine, et on a la croûte croustillante, le moelleux, les champignons et les oignons, et c'est le bonheur.
Vivement ce soir, et Florian Gazan est d'accord avec ce projet. Nous sommes,
moi
aussi.
J'adore les champignons.
C'est parfait. Vous savez quoi, il est 9h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité, Dominique Tenza.
Mais d'abord, l'effondrement cette nuit d'un immeuble à Sanary-sur-Mer dans le Var, probablement dû à une explosion de gaz. Deux personnes sont toujours bloquées dans les décombres. Trois ont été extraites, dont un bébé qui vient d'être retrouvé grâce à l'aide précieuse d'un chien qui accompagne les secouristes. Précision d'Éric Groin, colonel directeur des pompiers du Var.
Le chien, c'est essentiel puisque là, on entendait le bébé, on avait du mal à le localiser. On a nos appareils également qui étaient en œuvre, mais le chien a marqué tout de suite. Et donc ça nous a permis d'essayer de faire un tunnel pour aller rechercher ce bébé. Et on a fait le tunnel, on a réussi à le ressortir. Et nous avons mis plus de deux heures à sortir ce bébé. Et à l'heure où je vous parle, il est pris en charge par les deux équipes de SAMU qui sont sur place. Il va bien.
Propos recueillis sur place par Étienne Baudu. Et puis l'autre information de cette matinée, ce sont les annonces du gouvernement pour faire face à la cinquième vague. L'exécutif appelle à la prudence mais refuse d'élargir les restrictions. Aucune annulation, aucune jauge, aucune fermeture, sauf pour les discothèques. Seule exception, elles devront fermer pendant 4 semaines au moins. Le protocole sanitaire par ailleurs est renforcé dans les écoles, niveau 3 désormais, ce qui signifie notamment port du masque pour les jeunes élèves, même durant la récréation. Quant à la vaccination des enfants, elle sera possible dès le 15 décembre pour les 5-11 ans qui présentent un état de santé fragile. Ce sera à partir du 20 décembre pour tous les autres.
Merci beaucoup, Dominique.